I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour à tous et bienvenue à vous. Merci de votre fidélité. Voici le programme du jour. Il y avait l'homme qui tombait à pic et il y a désormais les jeux qui tombent à pic pour Emmanuel Macron. Le président, et c'est tout à fait normal, tout sourire hier sous le soleil marseillais. Il est vrai que c'était une réussite hier sur beaucoup de plans, même s'il y a eu un mouvement de foule assez impressionnant. Et le chef de l'État qui a appelé à être fier. Alors justement, de quoi sommes-nous encore fiers? Et aujourd'hui, et surtout, est-ce qu'on peut décréter comme cela la fierté autour des Jeux Olympiques? On posera la question à nos invités. Rima Hassan ou la polémique permanente? La candidate sur la liste LFI aux Européennes, qui est en réalité devenue la tête de liste, par substitution, veut tout fracturer jusqu'au jour où elle le fera peut-être dans son propre camp. Nous parlerons de sa comparaison Gaza-Algérie. Et puis, retour du soleil bientôt, les stations balnéaires font le plein pour ce long pont de l'ascension. Mais dans le contexte économique qui est le nôtre, il y a des arbitrages forcément. Eh bien, on va prendre la direction tout à l'heure d'une ville touristique grand public de la côte atlantique. Et puis, on vous demandera comment vous faites pour gérer à la fois ces jours fériés et votre portefeuille. Voilà pour le programme. Nos invités dans quelques instants. Et tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, chère Somaïa Labitti.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le coup d'envoi du premier relais de la Flamme Olympique à Marseille avec la légende du football Basile Boli comme premier porteur pour un parcours en 8 étapes. Un parcours que vous suivez pour nous, Stéphanie. Stéphanie, quelle est l'ambiance que vous ressentez sur place?
Mais écoutez, là nous sommes devant la mairie de Marseille et d'ici quelques minutes vous allez pouvoir assister en direct à un relais de la Flamme Olympique. Donc là pour l'instant vous le voyez, c'est comme le Tour de France, il y a la caravane publicitaire qui passe juste avant le porteur de la Flamme, avec juste avant, on l'a vu également, un grand dispositif de sécurité, de fourgons, de gendarmes mobiles qui sont passés. Vous le voyez également, il y a de très nombreux Marseillais et visiteurs qui sont là pour assister, pour vivre ce moment. Ils veulent tous vivre ce moment, ils sont fiers pour Marseille. Et donc je vous le disais, c'est Myriam, une danseuse du ballet de Marseille, qui va arriver avec la Flamme et qui va la passer à Mathieu, un marin pompier de Marseille qui est aussi athlète. Donc bon, elle doit être derrière les camions, mais vous voyez, c'est un moment d'ambiance, de ferveur, une fête de plus pour Marseille.
C'est un beau soleil comme on le voit sur les images d'Antoine Estève. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Stéphanie. Dans le reste de l'actualité, la série noire continue pour le Secours Populaire. Troisième cambriolage en l'espace de 6 mois pour une antenne de l'association en Isère. La moitié du stock est dévastée, déplore le secrétaire général. Écoutez-le.
Il y a eu un temps assez long de sidération. C'est du brigandage gratuit, c'est même scandaleux. Tout le travail effectué par les bénévoles est anéanti en quelques heures. C'était assez difficile d'avoir ce paysage devant nous, là, cette dévastation.
Et puis, à l'occasion de la Journée de l'Europe, l'Arc de Triomphe et des monuments emblématiques de lieux illuminés avant les élections européennes et floqués du slogan « Utilisez vos voix ou d'autres décideront pour vous », manière de rappeler aux électeurs le scrutin du 6 au 9 janvier prochain, au 9 juin prochain, pardon. Et puis, certains fans campent depuis des jours devant le Paris Défense Arena, coup d'envoi ce soir de la tournée européenne de Taylor Swift. Après une immense tournée aux États-Unis ou encore au Japon, la superstar américaine s'apprête donc à enflammer l'Europe, à commencer par la France. Sonia, est-ce que vous y allez ce soir?
Ah ben écoutez, voilà, une bonne idée. Entre Jul et Taylor Swift, le choix, je ne peux pas me mouiller. Deux styles, deux ambiances, deux salles, deux ambiances. Mais sous le soleil marseillais, ça doit faire du bien.
Ça doit être pas mal.
Merci, chère Somaïa. À tout à l'heure, on va poser la question à nos invités également. Je les salue tout d'abord. André Valigny, merci d'être là et bonjour à vous. Régis Le Sommier, bienvenue. Bonjour.
Bonjour Sonia, merci.
Maître Sarah Salman, merci de votre présence. Bonjour,
merci à vous. Sonia,
et je salue évidemment Stéphane Simon. Merci.
Bonjour Sonia, bonjour à
tous. Également d'être avec nous pour Midi News. Êtes-vous généralement bon public ou est-ce que vous faites partie de ceux qui voient ce qui ne va pas dans un grand événement, Malheureusement, il y a eu une bousculade hier et c'est vrai que les images étaient assez impressionnantes. Il y a eu un moment de panique et d'inquiétude, mais il faut le reconnaître que sur beaucoup d'autres plans, cela a été une réussite. Ce qui nous intéresse, ce sont les mots du président de la République. Puisque tout sourire hier, Emmanuel Macron a salué cet événement et a beaucoup parlé de fierté, la fierté française d'accueillir un tel événement. Je vous propose de l'écouter.
La flamme est là, les Jeux Olympiques et Paralympiques sont là dans la vie du pays, dans la vie de la France, on peut être fier. C'est la fête des Françaises et des Français. Et je veux qu'ils en soient fiers. Je veux que nos compatriotes se représentent, que c'est un moment d'unité et qu'on en est capable et qu'on peut en être fier. On fait ce qu'il y a de plus beau au monde. Et ça, on doit être fier. C'est derrière un travail immense qui a été fait par des milliers de professionnels, de bénévoles. Et je veux vraiment que ce soit des millions de Français ce soir qui puissent être fiers de cela.
Je voudrais que ce soit des millions de Français qui puissent être fiers de cela. Alors, la fierté ne se décrète pas, Régis Le Sommier. Si on faisait un tour de table, de quoi peut-on encore être fier en France ? Est-ce qu'on peut être fier d'accueillir de tels Jeux olympiques ?
Moi, je pense que oui, incontestablement. Et c'est un petit peu normal qu'Emmanuel Macron, au vu de l'état de décomposition du pays et de ce qui a pu se passer dans les mois qui viennent et encourage, c'est évident qu'il allait saisir l'événement et il a peut-être raison de le faire. Il faut rappeler quand même que dans cette cité de Marseille, cette même cité de Marseille était il y a quelques mois décrite par ses propres magistrats comme une quasi-narco-cité. Donc là, voir une flamme olympique et la liesse populaire qui va avec, même s'il y a une bousculade et que ça arrive, c'est malheureusement, on n'y peut rien, c'est quand même réjouissant de voir que Marseille n'est pas qu'une narco-cité et que la France n'est pas non plus qu'un océan de larmes et qu'il y a des raisons de se réjouir. Et en l'occurrence, cette flamme olympique va nous porter. On espère que pendant le moment, ça sera une sorte de parenthèse et que...
Parenthèse,
mais on sent que Emmanuel Macron aimerait bien que ça dure.
Ah bah oui, que la parenthèse ne se referme pas, malheureusement. Peut-être, d'ailleurs, ne s'ouvrira-t-elle pas pour lui. Je ne sais pas s'il peut en tirer des bénéfices politiques, André Valigny. Mais est-ce qu'il ne reste plus que cela, que de tels moments pour unir, même parfois de manière factice, le pays ? Est-ce qu'on ne se retrouve qu'à travers de tels événements sportifs et autres ?
C'est toujours un peu le cas. Lorsqu'il y a une grande manifestation sportive, c'est le cas avec les Jeux Olympiques, la France, et heureusement d'ailleurs, ne doit pas bouder son plaisir et doit profiter du moment. Je crois que Macron a raison de dire qu'on peut être fier parce que ça a demandé beaucoup de travail, de préparation. Les forces de sécurité notamment sont sur le pied de guerre depuis des mois. Hier, tout s'est très bien passé. Les images étaient magnifiques. Je pense que ça va continuer. Et je le répète, il ne faut pas bouder son plaisir. On a assez de raisons d'être inquiet ou d'être parfois pas très content de ce qui se passe pour que justement, quand il se passe quelque chose de beau et de fort, on puisse en profiter.
Mais trouverez-vous que c'est d'être rabat-joie que de dire qu'on aimerait être fier d'un pays qui maîtrise ses déficits, d'un pays qui a une natalité aussi en forme. Non, mais c'est rabat-joie de le dire comme ça.
On peut être fier d'avoir un président et un gouvernement qui est champion dans la communication, dans l'art de la communication. On voit qu'effectivement, ces JO s'ouvrent avec une première partie assez festive et de liesse, et c'est évidemment de bonnes nouvelles. Moi, je rappellerai quand même que lorsque que l'équipe de France en 2018 a gagné pour la deuxième fois la Coupe du Monde, la liesse n'a pas duré très longtemps, puisque 15 jours plus tard, il y avait l'affaire Benalla. Et je crains que ce soit un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va assister à des jours heureux dans les jours qui viennent, à une liesse populaire, mais le réel finit toujours par se réinviter dans nos conversations. Et je ne serais pas surpris qu'en septembre, on soit rattrapé encore une fois par la sinistrose ambiante.
Champion de la communication, dites-vous, oui. Je voudrais vous faire réagir, Sarah Salman, et puis on va vous écouter sur la réaction justement sur X, sur les réseaux sociaux du Premier ministre, Gabriel Attal. Alors il a raison évidemment de se réjouir, hein, c'est pas sur le fond, mais je voudrais qu'on voit le message sur la forme. Le J, c'est le S, la flamme est arrivée, que la fête commence. Alors si vous n'avez pas le code,
c'est
le J,
bon, je l'ai maintenant.
Vous l'avez.
Je l'ai, le J, c'est le S.
Ah, vous
ne
l'aviez pas au moment, le J.
C'est Joule.
C'est le sang, c'est la fraternité, c'est frère, non ? Enfin, je suppose.
Oui, on le déduit.
Bon, on le déduit.
Pas une grande fan de Joule, mais je vois à peu près qui c'est.
Vous êtes fan de la communication du Premier ministre ?
Bah, c'est une communication plutôt pour les jeunes. Je le vois beaucoup très actif sur TikTok. Donc eux, lui, son public, c'est les jeunes. Il est quand même plutôt jeune. Il s'adresse aux jeunes. Et en ce sens, oui, il est très fort en communication. Après, le discours d'Emmanuel Macron est assez consensuel. On va pas dire non, nous ne sommes pas fiers. Enfin, il fait un discours où personne ne peut dire non. Il y a une bousculade. Bah, vous, peut-être, vous pouvez dire non. Mais
Non. Il vous fait le geste.
Joule. De Joule. C'est comme ça.
Tout simplement. Comme ça. Enfin, Sarah Salman. Enfin.
Bah oui.
Oui, je suis beaucoup sur TikTok, mais ça, j'ai des lacunes. Effectivement, je reconnais mes lacunes.
Et je connaissais pas le J, c'est le S.
Mais on est là pour faire des cours de rattrapage. Non, mais ce qui va m'intéresser aussi, c'est les paroles des chansons, puisque pardonnez-moi, on va mettre tout le monde.
Non, j'aimerais juste préciser.
Vous allez terminer, mais Aya Nakamura, on a décortiqué ses paroles, on va le faire pour Joule quand même.
Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est la loi du nombre. Et Aurore Berger a dit dans votre interview ce matin, je crois que c'était elle, c'est la personne la plus écoutée. Joule, c'est pour ça qu'on va le choisir. Donc maintenant, ce n'est plus la qualité de la musique, c'est la loi du plus grand nombre. Si le plus grand nombre écoute cette musique, eh bien, on doit faire représenter la France par cet artiste. Donc bon, ça peut aussi nous interroger.
Ah, c'était l'argument d'Ayana Cameron.
Oui, bien sûr.
La plus téléchargée au monde, la chanteuse française la plus téléchargée.
Alors, écoutons quelques extraits, puisque effectivement, c'est lui qui a enflammé le chaudron olympique hier. Chanteur,
je connais.
Rappeur Joule. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Bon. Et on a sélectionné, alors c'est vrai, on a sélectionné quelques paroles. Alors je suis tombée par hasard sur ces paroles-là. Je vais vous les lire. Pardonnez-moi,
c'est pas en bande organisée.
Pas avec le même rythme. On va les voir s'afficher. Non, je ne l'ai pas encore. Mais ça peut venir. Sors le cross volé, cabre, même si la roue est voilée. Pétard en billet violet, te déshabille pas, je vais te violer. Et donc, forcément, ce matin, puisque nous avions la ministre en charge de l'égalité femmes-hommes, nous avons posé la question à la ministre : que pensez-vous de telles paroles ? Êtes-vous à l'aise avec de telles paroles ? Comme sur les paroles, puisque depuis ces dernières semaines, on parle beaucoup des paroles des chanteurs ou des chanteuses. Joule, alors c'est vrai qu'on a choisi ces paroles-là, il y en a beaucoup, mais il y a celle-ci, sort le cross volé, cabre même si la roue est voilée, pétard en billet violet, te déshabille pas, je vais te violer. Madame la ministre en charge de l'égalité entre les
femmes
et les hommes.
Avec vous, c'est vrai que je l'écoute assez peu. Donc je le connais, je connais son style, mais je ne vais pas faire semblant
de
connaître les paroles.
Pour un chanteur représente la France ?
Moi, je pense qu'il représente, en tout cas, un chanteur qui est apprécié par les Français. Je crois qu'il n'y a eu aucune polémique hier, donc j'ai pas envie du tout.
Il y a eu des interrogations quand même.
Peut-être, parce qu'il y a toujours des esprits chagrins. Moi, je crois qu'il faut célébrer la fête qui a eu lieu hier, la concorde qui a eu lieu hier. Moi, je retiens encore une fois cette ferveur populaire, parce que ça doit être aussi une grande fête populaire, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors,
vous voyez, il y a quelque chose.
Il y a une réticence à répondre frontalement à la question. La question,
on est d'accord.
Non, mais quand on choisit quelqu'un pour rallumer la flamme, normalement, on peut aussi se demander si ça a valeur d'exemplarité. Dans le cas de Joule, c'est quand même problématique. Moi, je voudrais juste rappeler qui est Joule.
En
2014, je vais casser l'ambiance un petit peu. En 2014, il est témoin de l'assassinat de son producteur Karim Tim. En 2017, il est arrêté, excès de vitesse sous stupéfiant. La même année, il fait de la garde à vue parce qu'il possède un pistolet sans autorisation et parce qu'il détient des stupéfiants également. Encore plus récemment, il a été condamné à des travaux d'intérêt généraux parce que quand il tourne un clip, il ne demande pas d'autorisation. C'est le seul à ne pas demander d'autorisation. Nous autres professionnels de l'audiovisuel, on sait qu'il faut des autorisations. Et en plus, par-dessus le marché, il organise des rodéos sauvages dans le tournage de ces clips. Donc vous voyez que question exemplarité, on fait mieux. On aurait quand même pu, pour allumer cette flamme, d'abord se demander si c'était pas plutôt un athlète qui aurait été le mieux placé le faire.
Là, on choisit un rappeur.
Moi, je serais dans la famille de Coubertin, je dirais un peu moins de rappeurs, un peu plus d'athlètes. Ce serait pas trahir l'esprit des JO.
Il peut y avoir un artiste, un chanteur sur lequel il n'y a pas de polémique, sur lequel il n'y a pas de division. Il est vrai qu'hier, et ce n'est pas simplement un sujet réseaux sociaux, il y avait beaucoup d'interrogations sur sa présence et le symbole. C'est-à-dire, est-ce que c'est la France à l'international d'avoir, je crois que c'est l'un des plus grands, celui qui vend le plus de disques en France.
D'accord, mais c'est quand même un sirop.
C'est un rappeur.
Pardonnez-moi, mais c'est quand même un sirop de poivre. On vous fait passer ce type-là pour un doux, pour un gentil rappeur, alors qu'il a l'amertume, il y a la toxicité du poivre derrière tout ça. Et je le regrette vraiment.
Pardonnez-moi, c'est une phrase qui n'a rien à voir.
Vous l'avez eu ?
Non, pas. Je compte sur vous.
Non, mais on sentait.
Pas de violence sur ce plateau. J'ai peur de l'association des mouches.
Vous êtes un
chez Aurore Berger, c'est vrai qu'il y avait une difficulté. Je leur ai dit, faut séparer l'homme de l'artiste, quoi.
De l'œuvre.
Mais non, c'est vrai que le problème de Joule, bah oui, c'est tout ce que vous avez dit, mais c'est aussi ces millions de disques et cette connexion avec la jeunesse qui commence très tôt. Donc là, oui, il y a le message, il y a l'incarnation aussi de Marseille derrière lui, puisque ça reste un personnage emblématique de cette cité et de la culture marseillaise. Donc moi, n'étant pas en décision.
C'est pas faire un grand hommage à la culture marseillaise, parce que c'est un peu le triomphe de la capuche et du survêtement. Hein,
mais
et
ça
donc,
fait
vous
partie.
Y allez pas par le dos de la cuillère.
Non, mais c'est la loi du nombre.
Écoutez, on est sur le pont, on le fait pas, donc on est là pour l'information et.
Non, mais vous avez raison.
Il y a quand même quelque chose avec Joule qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a une de ses chansons qui s'appelle La Bandite, qui a été utilisée dans le film Bac Nord. Donc qui est un peu la BO du film Bac Nord. Donc ça fait la synthèse entre quelque part les policiers qui connaissent parce qu'ils ont cette culture là aussi et puis les jeunes des cités. Donc quelque part Joule, il est quand même un peu emblématique.
Heureusement mais bien qu'on évidemment plus
maintenant est-ce qu'il est emblématique maintenant et est-il olympique
cause, je ne sais pas. Vous savez que voilà. Il a rempli le stade de France en l'espace de 20 minutes, c'est-à-dire que c'est un
succès énormément
de succès, mais pour autant, est-ce que le succès conditionne l'exemplarité?
Non,
mais je ne le crois pas.
Heureusement qu'on n'est pas en période de réforme des retraites comme on l'a été, parce qu'il a été l'un des détracteurs de cette réforme. Moi, je me souviens dans l'un de ses concerts où il a, comme beaucoup, en tous les cas dans ce milieu-là, dénoncé cette réforme. Donc là, ça aurait fait peut-être mauvais genre. Mais là, il faut reconnaître, ça s'est bien passé en tous les cas sur la scène. Mais maintenant, c'est la suite, parce qu'elle va se déplacer, cette flamme. Et les enjeux sécuritaires sont énormes. Pourquoi ? Parce que ça va avoir des conséquences sur toutes les autres villes. On déshabille un peu Paul, enfin pour beaucoup habiller la capitale, si je puis dire, après. Regardez ce sujet de Camille Guédon qui revient sur la sécurité et tout cet enchaînement sur la flamme olympique.
Il a créé la surprise. Le rappeur Joule a embrasé le chaudron des Jeux Olympiques. Personne ne l'attendait. L'identité du troisième relayeur de la flamme a été gardée secrète jusqu'à la dernière seconde, pour le plus grand bonheur des fans du rappeur marseillais.
Marseille, on est là !
Avant lui, la flamme a fait son entrée dans le port de Marseille aux alentours de 19h. Aux mains d'une autre icône française, mais cette fois-ci sportive, le champion de natation Florent Manaudou. Avant de descendre du mythique trois-mâts, la flamme a été accueillie en majesté par la patrouille de France qui a reproduit dans le ciel les anneaux olympiques et le drapeau tricolore. Sous les yeux ébahis du public, mais aussi du président de la République.
La flamme est sur le sol français, c'est la fin de plusieurs années de préparation et j'ai avec beaucoup d'émotion le souvenir encore de juillet 2017 quand on gagne à Lausanne et on était là en septembre, quelques semaines après, il n'y avait rien qui était prêt. Et aujourd'hui, voilà, la flamme arrive, les Jeux arrivent et rentrent dans la vie des Français.
La flamme a ensuite été remise à la championne paralympique Nantenin Keita et enfin à Joule. La flamme quittera Marseille vendredi pour continuer son périple par le Var avant de poursuivre son tour de France jusqu'à Paris.
On notera que la ministre des Sports n'a pas entonné un refrain de Joule comme elle l'a fait pour Aya Nakamura.
Ouais, pourtant, elle avait beaucoup de talent quand elle chantait Dja, j'avais trouvé ça extraordinaire. Vraiment.
Peut-être qu'elle le fera, on n'est pas à l'abri encore de tout ça. Mais tout d'abord, les titres avec vous, cher Somaya.
À la une de l'actualité, le coup d'envoi du premier relais de la flamme olympique à Marseille avec la légende du foot Basile Boli comme premier porteur depuis Notre-Dame de la Garde. Un parcours en 8 étapes assuré par 189 personnes dont des champions et médaillés olympiques, un marin-pompier ou encore un artiste drag queen. Une déclaration, je cite, « difficile à entendre et très décevante », estime l'ambassadeur d'Israël à l'ONU qui réagissait à la récente menace de Joe Biden de cesser la livraison de certaines armes à Israël en cas d'offensive d'ampleur à Rafah. Et puis la série noire se poursuit pour Boeing. Hier, un 767 qui reliait l'aéroport de Roissy à celui d'Istanbul en Turquie a été contraint d'atterrir sur le nez faute d'ouverture du train d'atterrissage, comme vous pouvez le constater sur ces images impressionnantes. Une manœuvre qui fort heureusement n'a pas fait de blessés.
Alors, sur X, la candidate LFI aux élections européennes, Rima Hassan, qui est devenue en réalité la tête de liste par substitution, en remplaçant Manon Aubry, s'est fendue d'une affirmation qui a évidemment beaucoup fait réagir. On va la voir, cette affirmation. Ce que fait Israël à la Palestine n'est pas très différent de ce que la France faisait à l'Algérie, a-t-elle écrit, ajoutant par la suite « Aucune fable coloniale ne nous fera renoncer à la libération ». Donc Rima Hassan compare Israël à la France coloniale, la Palestine à l'Algérie. Et donc il faut... Moi je voyais aussi autre chose, je vais vous laisser réagir, parce que derrière cette comparaison, ça veut dire qu'il faut, me semble-t-il, hein, de son point de vue, excuser ou atténuer les actes terroristes. Parce que quand on compare Gaza et l'Algérie, on rappelle le FLN, c'était ça, il était considéré par certains comme étant des actes de résistance et pas de terrorisme. Et puis il y avait eu la fameuse polémique, en tout cas opposition, Sartre et Camus sur ce sujet. Donc derrière, déjà, je veux dire, il y a beaucoup de choses à dire sur ce qu'elle dit, mais le sous-texte est encore plus... Quel mot faut-il utiliser d'ailleurs ?
Des contre-vérités, c'est la spécialiste des fables, surtout Rima Hassan. Vous savez, elle a choisi le droit international, elle a rédigé un mémoire de master sur la comparaison juridique entre l'Afrique du Sud de l'apartheid et Israël. Elle n'a jamais mis les pieds, Madame Rima Hassan, en Israël. Il se trouve que j'y suis allé quelques fois, j'y ai même tourné un film. Et je sais, pour avoir vu de mes yeux, que quand on rentre dans un tramway à Jérusalem, il n'y a pas une catégorie pour les sous-citoyens et une catégorie pour les Israéliens. Je sais qu'à la Knesset, il y a 13 députés arabes, dont majoritairement musulmans, sur un total de 120 députés. C'est-à-dire qu'en France, on n'est même pas à ces chiffres par rapport à notre minorité musulmane en France. Par ailleurs, la Cour suprême, en 2022, a accueilli, parmi ses 14 membres, un arabe musulman également. C'est pas du tout un pays d'apartheid. Et quand vous faites un mémoire pour dire que c'est un régime d'apartheid, ça montre que vous prenez de très larges libertés avec la réalité. Mais la réalité, c'est que Mme Hassan n'a jamais mis les pieds en Israël, figurez-vous. Elle y est allée, elle a essayé d'y aller une fois qu'elle avait pris des positions absolument inaudibles pour le régime israélien, et du coup, elle n'est pas la bienvenue en Israël. Mais je pense que la prudence, ça aurait été d'aller une première fois en Israël, se rendre compte par soi-même de ce qu'est ce régime extrêmement démocratique. C'est un régime qui a pour organisation politique la proportionnelle totale, ce qui n'est pas son...
De toute façon, c'est au-dessus de son niveau d'entendement.
Elle est dans la diabolisation.
Auprès de qui un tel discours infuse? Et est-ce qu'il va infuser aujourd'hui? Parce qu'on est passé quand même en quelques jours... On a eu Gaza, Vietnam sur une bande, banderole devant Sciences Po Paris. Place de la République, on a eu Gaza, Treblinka.
Oui, il y avait enfin l'anniversaire de Dien Bien Phu qui était célébré devant Sciences Po d'une certaine manière. Moi, je rajouterais par rapport à ce qui a été dit, ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est qu'il faut la prendre aussi dans la façon dont ont été traités par la France Insoumise les événements du 7 octobre depuis le début. Dans cette phrase, il y a Israël. Elle fait la même chose en gros que ce que la France avait fait en Algérie, mais il n'y a pas le Hamas fait la même chose que le FLN avec les massacres de Philippeville. Donc il faudrait rappeler et finalement qu'ils sont exactement de la même ampleur et de la même cruauté. Le sourire kabyle, des choses absolument abominables qui avaient été faites sur des Français par le FLN, revendiquées par le FLN à l'époque, on est exactement dans la même acceptation que ce que le Hamas a fait le 7 octobre dernier. Voilà, c'est tout.
André Valigny,
mais ça n'est pas dans la phrase.
Voilà. C'est vraiment un piège redoutable qui est tendu aussi. C'est dans notre propre pays parce qu'il y a une forme de haine, de détestation de la France. Mmh. Et ma crainte pour notre pays, c'est qu'une partie du public, quel qu'il soit, et même à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on donne l'impression d'abord qu'on réprime, entre guillemets, des manifestations pro-palestiniennes alors qu'elles sont anti-israéliennes, même pro-Hamas pour certaines. André Valigny, comment on sort quand même de ce piège dans lequel beaucoup nous précipitent aujourd'hui?
Pour en sortir, il va falloir attendre que les choses s'arrangent à Gaza, que Netanyahou cesse sa politique critiquée de toutes parts, y compris en Israël, parce que ce qui s'est passé le 7 octobre est évidemment une tragédie effroyable, c'est un acte terroriste effroyable qu'a commis le Hamas, mais ce que fait Netanyahou depuis quelques mois provoque des réactions qu'on peut trouver légitime aux États-Unis, en France, en Europe, dans le monde entier. On n'a pas le droit de massacrer une population civile comme le fait Netanyahou.
Oui.
Je pense que les choses vont se calmer lorsque Biden et d'autres auront réussi à faire entendre raison à Netanyahou.
Vous employez le mot massacre pour ce qui se passe à Gaza.
Je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce mot massacre. Vous savez, il y a quand même 15 000 soldats du Hamas, en gros, de membres du Hamas qui ont été tués sur les 30 000 que l'on pourrait reconnaître, encore que ce soit des chiffres qui sont donnés uniquement que par les autorités palestiniennes. Hein,
les chiffres du Hamas sont donnés uniquement par les autorités israéliennes. Ouais. Donc chacun, les autorités israéliennes donnent les chiffres du nombre de militants du Hamas morts et le Hamas donne le chiffre des civils. Ouais, et Israël dit, mais nous sommes totalement éthiques, mais ne donne aucun chiffre de civils tués.
Alors,
Israël est complètement éthique, vous pouvez
quand même faire une soustraction. Si on considère qu'il y a entre 30 000 et 35 000 morts à Gaza et qu'il y en a 15 000 de militants du Hamas, ça veut dire qu'on tue un civil pour un soldat.
Il y a beaucoup de morts. Le sujet n'est pas décompté.
Je l'entends bien, mais je rappelle que la France, quand elle a bombardé Mossoul, a tué, et c'est le Premier ministre M. Valls qui le rappelait, a tué beaucoup plus de civils en essayant d'annihiler Daesh.
Pardonnez-moi, Stéphane Simon, là, la question, il y a énormément de morts à Gaza.
Je le sais, et je le déplore.
D'accord, mais alors quel est le but? Est-ce qu'à un moment... Parce que là, l'importation du conflit quand même est en train de fracturer une partie des plus jeunes. Donc comment on se prémunit, sachant que ça ne se rattrape pas de sitôt? Et là, on peut le dire malheureusement quand même.
Malheureusement, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Après, M. Netanyahou ne peut pas apporter l'entièreté de la responsabilité. Il y a beaucoup de personnes, même en Israël, qui le critiquent. C'était déjà le cas lors de la réforme judiciaire l'an dernier. Donc on peut tout à fait critiquer M. Netanyahou sans pour autant l'accuser de tous les maux. Concernant Mme Rima Hassan, je trouve qu'elle a une haine anti-France chevillée au corps. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Elle s'adresse à son électorat. Elle est dans une dynamique électorale. Elle est en campagne. Et vous l'avez dit, Sonia, à juste titre, elle a presque remplacé Manon Aubry par substitution. Mais il y a une partie de la communauté algérienne à qui ces propos parlent. Et je le rappelle, en 2021, il y avait un ministre algérien qui avait dit la France était un ennemi traditionnel et éternel de l'Algérie.
Mais attendez, mais il y a un président français qui a dit que c'est des crimes contre l'humanité.
Oui, bien sûr, mais je dis que simplement ça parle à certaines personnes.
Oui, mais donc, je pense qu'on a tous l'amour de ce pays. Comment on fait pour qu'aujourd'hui il n'y a pas dans les têtes de telles confusions? Mais vous imaginez, entre les pancartes Gaza, Vietnam, Treblinka, Varsovie, Algérie, et là c'est la figure de l'Occident, c'est la France qui est visée à travers... La comparaison qu'elle fait là, quand même, nous met au centre, met la France au centre aussi des critiques pour son passé, etc., qui revient à chaque fois en pleine
figure. C'est le but aussi.
Quand on est un responsable politique, il ne faut pas oublier le mot responsabilité, ça veut dire quelque chose, la responsabilité politique. La responsabilité, c'est de ne pas faire des comparaisons qui ne sont pas raison et d'entretenir à des fins électoralistes de tenir des mauvais procès. On peut dire beaucoup de choses sur la manière dont M. Netanyahou conduit la guerre. C'est vrai. Pour autant, est-ce qu'on doit dire qu'Israël est un État génocidaire? Je ne le crois pas.
Oui, mais alors pourquoi ça n'infuse pas suffisamment? Pourquoi cette position-là, qu'a eu d'ailleurs très courageusement Sophia Aram, et qui là fait l'objet, mais alors là...
Elle se prend un cyberharcèlement.
Ah, mais c'est d'une ampleur.
Mais pourquoi vous savez,
ça tombe sous le sens.
Je crois que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, et on verra bien si la stratégie de LFI qui aura été d'importer Gaza dans les discussions au moment des élections européennes va être payante ou pas. Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'ils vont se prendre une décule.
Mais au-delà de l'aspect politique électoral, vous avez vu, et on va en parler, on va marquer une pause, c'est tous ces étudiants, est-ce que pour vous, et comme l'a dit Aurore Berger ce matin, j'ai envie d'avoir votre réponse juste après la pause, est-ce qu'ils sont soit ignorants, soit antisémites? C'est ce qu'a dit la ministre pour...
L'un n'empêche pas l'autre.
Oui.
La pause, vous nous direz juste après. Merci d'être avec nous, nous allons poursuivre notre débat et je vais vous soumettre quelques réactions, propositions par rapport au soulèvement et rassemblement à Sciences Po ou à la Sorbonne. Alors peut-être que vous allez les considérer comme radicales ou trop molles, ça dépend, vous nous direz, après les titres de Somaïa Labi.
À la une de l'actualité, les forces nucléaires stratégiques russes sont, je cite, toujours en alerte, prévient Vladimir Poutine lors d'un discours commémorant la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. Le chef du Kremlin précise toutefois que la Russie fera tout pour éviter un affrontement mondial. À l'occasion de la Journée de l'Europe, l'Arc de Triomphe et des monuments emblématiques de lieux illuminés avant les élections européennes et floqués du slogan « Utilisez votre voix ou d'autres décideront pour vous », manière de rappeler aux électeurs le scrutin du 6 au 9 juin prochain. Et puis alors qu'il lutte contre un cancer, le roi Charles III a fait une apparition rassurante, tout sourire aux côtés de son épouse, la reine Camilla, hier après-midi à l'occasion de la Garden Party que le couple royal organisait, dont vous découvrez les images à l'écran.
dans un beau soleil londonien. On peut quand même le souligner.
Vous allez partout sauf à Paris, Sonia.
Merci. Cher Somaya, voilà. Mais vous êtes là, c'est l'essentiel. Avec nos invités aussi, André Valigny, Régis Le Sommier, Sarah Salman et Stéphane Simon. On reviendra sur la phrase d'Aurore Berger, soit ils sont ignorants, soit ils sont antisémites, concernant les étudiants qui se, enfin certains des étudiants qui se rassemblent et bloquent Sciences Po, ou alors quand ils l'ont fait à la Sorbonne. Mais tout d'abord, il y a plusieurs réactions. Par exemple, François-Xavier Bellamy estime que s'il y a des étudiants étrangers parmi ces manifestants, il faut les renvoyer chez eux. D'autres estiment, comme un député LR, vous allez voir le sujet qui le concerne, qu'il faut tout couper, toutes les subventions terminées, puisque la direction s'est couchée, dit-il. Voyez tout cela avec Mathilde Couvillier-Flornoy et vous nous direz ce que vous en pensez.
L'État doit, selon lui, s'en prendre au porte-monnaie de l'école. Dans une interview au Point, Jean-Louis Thieriot, ancien élève de Sciences Po, s'est offusqué du blocage de l'établissement par des élèves pro-palestiniens et pointe du doigt la direction.
La direction est en cause, elle s'est couchée. Elle a accepté de discuter avec ces gens alors qu'ils ne méritent que le conseil de discipline.
Le député souhaite des mesures plus fermes. Il a fait une proposition.
Il faut une loi de finances pour traiter une telle question. C'est pourquoi je dépose une proposition de résolution. Les établissements d'enseignement supérieur sous statut ne pourront plus recevoir de subventions publiques tant qu'ils n'auront pas pris les sanctions qui s'imposent contre les étudiants coupables d'apologie du terrorisme, de propos antisémites ou de volonté d'éradiquer un pays.
Pour Philippe Ballard, député RN de l'Oise, cette proposition est une idée juste, mais elle doit être effective en dernier recours.
Il y a un moment, il faut savoir taper du poing sur la table. Dans un premier temps, on ramène le calme, on ramène l'ordre, on expulse les fauteurs de troubles et ceux qui peuvent tenir des propos, notamment antisémites, pour ne pas pénaliser l'ensemble des étudiants qui souhaitent juste étudier, travailler normalement. Et dans un deuxième temps, si cela ne suffit pas, effectivement, il faut passer à la vitesse supérieure et supprimer les subventions.
Dans son interview, Jean-Louis Thieriot espère que la majorité Renaissance soutiendra sa proposition.
Voilà, ce sont ces mêmes parlementaires qui ont affirmé que la direction proviseure de Sciences Po s'est couchée. Capitulation, soumission, renoncement, tout ce que vous voulez. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est sur ce plan-là et de la judiciarisation aussi, et d'un projet de loi qu'il faut se battre.
Moi, je crois qu'il faut se battre, enfin, ce qui relève le problème principal de Sciences Po, dans ce qu'on voit, dans ce qui s'y déroule depuis quelques semaines, c'est un problème d'autorité. En effet, on peut dire là comment la direction s'est couchée, mais qui est cette direction? On ne les voit même pas. Maintenant,
on les a vus, ils n'ont pas annoncé grand-chose. C'était après le fameux town hall.
Oui, tout à fait. Mais il y a une direction provisoire. Donc, on est dans un flou. Le directeur a démissionné pour d'autres raisons que la question de Gaza et l'attitude des étudiants. Et ensuite, je pense que le problème, il est qu'une fois qu'il y a de l'ordre, une fois que l'ordre est respecté, la logique, c'est que tous les étudiants...
Mais encore faut-il qu'il le soit.
Oui, non, mais là, il ne l'est pas parce qu'il n'y a aucune limite.
Mais justement, donc, alors comment on les pose ces limites?
Non, mais on les pose.
Il n'y a pas des figures incarnant l'autorité qui arrivent comme
ça. Toutes les universités et toutes les Sciences Po, comment n'ont pas été, c'est pas l'insurrection partout. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus conséquent. Ici, c'est quand même sectorisé. Ça ne s'est pas répandu partout. Pourquoi? Parce que il y a quand même des établissements qui fonctionnent normalement et où les étudiants peuvent travailler tout en étant capables de protester.
Je vous donne
c'est ça
un
la
exemple,
vraie question. Là, on l'a vu. Vous vous souvenez, l'amphithéâtre Boutmi, renommé amphithéâtre Gaza, des blocages qui n'étaient pas du tout des explications. C'est-à-dire qu'on venait défendre les Palestiniens, on demandait pas à une opposition de venir, une étudiante juive n'avait pas pu accéder à la salle. Enfin bref, c'était du militantisme, de l'idéologie pure. La mise en coupe réglée d'un établissement par un certain nombre et une minorité.
Quelles sont les figures d'autorité quand aujourd'hui, par exemple pour Sciences Po Paris, nous étions en direct il y a quelques jours, vous voyez ces images qui datent du 7 mai, ce sont des enseignants, des syndicats d'enseignants que pour certains ont rejoint les étudiants le jour où d'autres ont voulu passer. Ils ont fini par passer les examens, ils ont été au départ empêchés ou en tous les cas entravés. Vous avez l'une de ces professeurs qui a interpellé François-Xavier Bellamy sur place et qui lui a dit qu'il fascisait le pays. Pourquoi? Parce qu'il a participé au vote sur le projet de loi immigration.
et que le député et que le député européen doit quand même lui répondre, mais madame, je veux simplement que mon pays contrôle ses frontières.
Mais elle mettait en avant aussi ses origines algériennes et le fait que ses parents ont dû lutter.
Elle mélange tout, elle mélange tout.
C'est le décolonialisme.
Mais c'est la victimisation absolue. Mais ça, c'est la rhétorique classique.
Contre cela, en fait, est-ce que c'est la bataille?
Il faut de l'autorité, c'est-à-dire vous êtes étudiant à Sciences Po, vous obéissez à des règles. Et vous respectez les autres.
Voilà. On peut remarquer quand même qu'il y a d'abord, ils ne sont pas si nombreux que ça, ces étudiants pro-palestiniens qui sont très largement infiltrés par la France insoumise. On voit Louis Boyard sur vos images. Écoutez, moi je ne serais pas contre l'idée que l'autorité s'exerce, c'est-à-dire qu'on laisse libre l'accès pour les étudiants qui veulent étudier, qu'on laisse libre l'accès à cette.
Mais ça ne coule pas de source, comme vous dites.
Ça ne coule pas de source, c'est bien.
L'autorité,
d'hier, mais pardon, parce qu'on doit se souvenir qu'avant de devenir la grève générale, en 68, c'est parti de l'université de Nanterre, les événements. Et à l'époque, on ne maîtrisait pas non plus la situation. C'était le pouvoir gaulliste, pourtant. Un pouvoir qui exerçait son autorité
pleinement.
Vous posez
ça dans le débat. Comme ça, vous me dites ce que vous en pensez. Le Premier ministre a dit oui pour le débat, non au blocage. Le président de la République, dans la tribune dimanche, a dit oui, non pour ça. Écoutons Nicole Belloubet, après vous me direz si ces personnalités censées incarner l'autorité dans notre pays sont écoutées.
L'université, c'est vraiment le lieu du débat. Et au contraire, ce débat doit être autorisé, puisque c'est vraiment c'est le propre même de l'université. En revanche, le blocage n'est pas acceptable. On ne peut pas empêcher des jeunes qui veulent passer leurs examens, suivre leurs cours. On ne peut pas les empêcher d'entrer dans l'université, non plus que les empêcher d'entrer dans les lycées, d'ailleurs.
Mais
Madame Retailleau.
Je pense que Madame
Retailleau, elle a dit la même chose sur les réseaux sociaux. N'attendez plus les paroles. Je vous demande les actes.
Les actes, Sciences Po a la possibilité d'infliger des sanctions disciplinaires. Ils peuvent le faire. Ils ont décidé dans leur communiqué de suspendre ces sanctions. Ce qui veut dire, c'est bientôt les vacances, qu'il n'y aura pas de sanctions. S'ils avaient directement infligé des sanctions, comme une exclusion même temporaire, je pense que ces 50 étudiants qui mettent le bazar rue Saint-Guillaume auraient déjà arrêté. Donc si on décide de ne pas mettre de sanctions, ils n'ont aucune raison d'arrêter.
Alors, c'est là où je voulais vous emmener. Donc, alors, autorité égale sanctions. Mais nous sommes aussi un pays regardé par le reste du monde. Comment les autres pays qui ne comprennent pas forcément, enfin je veux dire qui n'ont pas la même lecture, pardon, mais dans d'autres pays, peuvent voir la France et vont dire, regardez, pays islamophobe, c'est ce qu'il va dire.
Mais là, on tombe dans le piège, le sempiternel piège que les frères musulmans veulent nous tendre, c'est-à-dire nous accuser en permanence d'islamophobie. Alors là, ce n'est pas une question d'islamophobie ou pas, c'est une question de est-ce qu'on peut exercer un enseignement dans cette université, enfin, cette science politique rue Saint-Guillaume ou pas ? Est-ce que les étudiants sont libres d'aller suivre les cours ou pas ? Or, on assiste justement à la démonstration de l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une minorité, une cinquantaine, peut-être 80 étudiants qui décident de mettre le bazar, qui importent le conflit entre Israël et le Hamas rue Saint-Guillaume, ce qui est quand même pas une évidence pour beaucoup de gens, et on laisse filer tout ça. Et Mme Belloubet se trompe quand elle dit que l'université, c'est le lieu du débat. L'université, c'est le lieu où on apprend l'esprit critique. C'est pas la même chose. On n'est pas obligé de faire des débats houleux comme ça à l'extérieur des rues pour apprendre l'esprit critique.
Moi, je voudrais rajouter...
Gaza et Rafah, c'est-à-dire que ce n'est pas prêt, attention, parce qu'on dit là, ça peut se calmer et reprendre avec l'offensive.
Si l'offensive reprend sur Rafah, bien sûr. Ah oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, on a Sciences Po, en effet, où il y a ce spectacle depuis quelques semaines, mais il ne faut pas oublier quand même qu'aux États-Unis, il y a des spectacles équivalents. L'université de Columbia a été bloquée. Le hall Hamilton, qui est le hall célèbre de cette université, a été complètement saccagé. Tout le camp campus de UCLA a également été saccagé par des militants pro-palestiniens.
Saccagé, hein.
Ah oui, véritablement. Le campus de UCLA a été vraiment très très abîmé, dégradé. Donc, et avec des blocages, des interdictions à certaines personnes de rentrer. Enfin, donc, ce n'est pas propre à Sciences Po. Ça existe aux États-Unis avec des conséquences. On pourra peut-être en parler.
Ça vient souvent des États-Unis.
Assez et avec vraiment une épine dans le pied pour Joe Biden pour sa réélection. On ne va pas mais c'est beaucoup plus compliqué électoralement à gérer pour Joe Biden que pour Emmanuel Macron, me semble-t-il, au vu des échéances qu'il y a cette année aux États-Unis.
Évidemment, et puis avec la puissance américaine et l'allié israélien. Écoutez, André Vallenis, je voudrais avoir votre réaction. La ministre chargée de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, elle avait dit ça sur les étudiants. Elle dit c'est pas possible avec de tels slogans. Soit ils sont ignorants, soit ils sont antisémites. Ça a fait beaucoup réagir. Écoutons-la.
Je pense que le but, c'est de fracturer, le but, c'est de créer de la polémique, le but, c'est aussi qu'on parle d'elle. Malheureusement, ça réussit, parce que c'est vrai que les polémiques sont tellement importantes que ça nous oblige à réagir, et en réagissant, eh bien, on les fait aussi exister. C'est toujours la difficulté de est-ce qu'on doit systématiquement réagir ou non à l'égard des outrances, parce qu'on le voit bien, c'est des outrances systématiques, des paliers d'outrances systématiques qui sont franchis.
Bon, là, elle répondait sur Rima Hassan et elle maintient ce qu'elle a dit. Elle a dit avec de tels slogans, c'est pas possible, soit c'est de l'ignorance, de l'inculture crasse, soit eh bien, c'est de l'antisémitisme affiché et décomplexé.
Bon, il y a les deux sûrement. Hein. Il y a des gens parmi tous ceux qui manifestent de façon excessive et souvent scandaleuse, il y a souvent de l'antisémitisme, mais il y a aussi d'autres étudiants, me semble-t-il. D'ailleurs, j'ai vu passer un panneau, une pancarte.
Soutenir Gaza, ce n'est pas être antisémite. On a vu
donc il y a aussi des gens qui soutiennent Gaza de bonne foi, si j'ose dire, sans antisémitisme. Il y a un peu de tout. Moi, je pense qu'il faut évidemment faire sauter les blocages, si j'ose dire, que les étudiants qui veulent travailler, étudier, passer leurs examens puissent le faire. Et pour le reste, vous avez raison tout à l'heure en disant que les manifestations à l'université en 68, à l'époque il y avait les maoïstes, puis la guerre du Vietnam, c'est un peu le lieu du bouillonnement à l'université et Sciences Po aussi.
Dans ce cas-là, ne venez pas me dire que quand, pas vous, hein, quand Rima Hassan doit tenir conférence à Paris Dauphine, donc il y a eu une circulaire pour interdire, finalement la justice administrative lui permet de tenir cette conférence, je crois, fin mai, dans ce cas-là, très bien. En pleine campagne.
Bah non, là, c'est pas très bien parce que je pense que
c'est le lieu du débat.
Ça s'appelle porter de la logistique et de l'assistance à la politique.
Mais oui, parce qu'elle est candidate. Donc je comprends pas quelle est l'autorisation.
Eh bien, la justice administrative le permet.
Campagne, parce que c'est faire campagne.
Mais alors, pourquoi les autres candidats ne le font pas pour venir opposer un autre discours ? Attention, parce que là, faute de combattants, en réalité, ou d'opposants, si je puis dire, les facultés sont désertées par certains. On va continuer d'en parler. Je vais vous faire soumettre un autre. Réagir à un autre sujet. Vous êtes automobiliste ?
Oui.
Vous êtes parisien ?
Non.
Ah, m'intéressez pas. Après les titres, on en parle.
Mais il y a des zones 30 en province aussi.
Ah, vous allez m'en parler alors. Les titres tout d'abord avec Cher Somaya. C'est à vous.
À la une de l'actualité, la mort d'un enfant de 3 ans à Mayotte, première victime du choléra depuis le début de l'épidémie. Plusieurs cas avaient été identifiés ces dernières semaines chez des personnes revenant des Comores voisines où l'épidémie flambe avec 98 décès selon le dernier bilan officiel. Les forces nucléaires stratégiques russes sont, je cite, toujours en alerte, prévient Vladimir Poutine lors d'un discours commémorant la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. Le chef du Kremlin précise toutefois que la Russie fera tout pour éviter un affrontement mondial. Et puis, certains fans comptent depuis des jours devant le Paris Défense Arena. Coup d'envoi ce soir de la tournée européenne de Taylor Swift. Après une immense tournée aux États-Unis ou encore au Japon, la superstar américaine s'apprête donc à enflammer l'Europe. À commencer par la France.
Exactement. Et quand vous prenez les rues, les routes pour y aller, notamment dans la capitale, vous le savez, peut-être pas vous tous qui nous regardez, mais en tous les cas, la vitesse est limitée à 30 km/h dans quasiment tout Paris, je crois. Et alors, c'est le cas depuis, je crois, le 30 août 2021. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui était totalement prévisible, qu'ont fait les radars ? Ils ont flashé. En série, qu'est-ce qui s'est passé ?
Plein de PV.
Toutes les contraintes. Mais alors là, c'est le jackpot total. Mais ce sont des sommes exceptionnelles. Nombre de contraventions record. Et dans quelle poche tout cela va aller, selon vous ?
Ça permet de renflouer les caisses.
Ah bah écoutez, je ne sais pas quelle caisse.
Je ne suis pas certain que ça
peut améliorer l'état de Paris.
Je suis pas certain que ça suffise à combler les 7 milliards d'endettement supplémentaires que Madame Hidalgo a voté pour les Parisiens. Je n'y crois pas.
C'est pas moi. Regardez.
Mais ceci étant, c'est assez traître car ces flashs évidemment qui sont faits dans le dos des automobilistes ou des motards, eh bien ils arrivent dans les boîtes aux lettres et ils sont difficilement contestables, ce qui est problématique.
Tout à fait. On va voir ce reportage. Vous nous direz ce qu'il en est dans votre commune, cher André Vallenny. Ce reportage est signé Antoine Durand et Thibault Marcheteau.
Il ne faut rester que quelques minutes devant ce radar parisien pour assister à cette scène. En septembre 2020, ce radar situé dans le 5e arrondissement n'avait flashé que 399 fois. Un an plus tard, et après la nouvelle loi sur les 30 km/h dans Paris, le flash s'est déclenché plus de 8820 fois.
Là où il y a les enfants qui traversent, etc., on voit les passages piétons, là je veux bien, mais là, sur le quai, là, à 30, c'est voler les gens. Hein.
C'est pas normal à 30, là, ici. C'est 50, c'est normal, 50, mais 30, et...
Pour ce journaliste spécialisé, la chasse aux automobilistes parisiens se poursuit.
En 2021, quand Madame Hidalgo a mis en place la vitesse à 30 km/h dans Paris, elle se limitait aux petites rues. On se rend compte aujourd'hui qu'elle l'a étendue à tous les grands axes, voire elle rêve de l'étendre au périphérique. C'est juste une manière de racketter les automobilistes et de renflouer ses caisses.
À Paris, seulement 4 radars contrôlent la vitesse dans les zones à 30 km/h. Certaines associations de piétons en réclament davantage pour plus de sécurité.
Plus de radars. Je crois qu'il n'y a que... Alors, je vais faire attention aux chiffres. Je les ai comptés, les radars. Je crois qu'il n'y a que 7 radars intramuros à Paris.
Ça me semble très en dessous de la réalité. Oui, parce qu'il y en a beaucoup sur les feux. Qui
flashent ceux qui. Ah non, mais c'est attention, c'est pas la même chose.
Ah oui, oui, non, mais c'est pour vous dire que le nombre de radars est bien supérieur. Ah, à ça. Il y a des radars d'excès de vitesse.
Pour des raisons écologiques, non ?
Voilà, il y a
mais
des radars.
Évidemment, mais pour se mettre au diapason des mobilités douces.
Ah, je peux pas, ce mot.
Vous savez ce qui est terrible ? Moi, j'ai repassé les points pour récupérer les points il y a pas longtemps, parce que j'en avais plus que 2 sur mon permis, à force justement d'être parisien et de me faire avoir point après point. Ce qui est terrible, c'est quand on essaye de respecter les 30 à l'heure, vous avez une pression des autres automobilistes pour aller plus vite, qui vous flash derrière, qui essaye de vous, pratiquement de vous pousser. Donc en fait, ok, la loi existe, ok, elle est imposée à Paris, mais culturellement, on n'y est pas du tout. Les gens n'ont pas intégré le fait qu'il faut se limiter à 30 à l'heure. On a l'impression de gêner quand on est à 30 à l'heure dans
Paris. Pour ceux qui connaissent mal Paris, pardon, il faut quand même rappeler qu'à Paris, on circule en moyenne à 16 km/h. C'est dire qu'on ne roule pas bien vite à Paris et qu'on est plus souvent dans les bouchons qu'à 50 km/h. Et c'est ça qui est assez assez préjudiciable, c'est que la circulation est très compliquée et qu'il y a effectivement des zones qui sont un peu plus dégagées que les autres et qui ne pose pas de problème de sécurité, il n'y a pas de passage piéton, il n'y a pas de... Et donc, on peut rouler entre 40 et 50 km/h assez facilement. Donc, on voit bien que c'est une espèce de piège qui est tendu aux automobilistes qui veulent justement, simplement, faire un parcours à 16 km/h de moyenne, ce qui est quand même pas beaucoup.
Qui pose les radars dans les villes, dans les communes ? Qui a autorité sur les radars ? Vous le savez, André Vallini ?
C'est la municipalité en liaison avec les forces de sécurité, la gendarmerie en zone rurale et la police en zone urbaine. Moi, je pense que les 30 km/h doivent être limités, si j'ose dire, aux zones où il y a des écoles. Ailleurs, je pense que 50, c'est tout à fait raisonnable. Et c'est vrai qu'il y a des pas seulement à Paris, d'ailleurs. Mmh. Je vois à Grenoble, et y compris dans ma petite ville de Tulinfur, il y a des passages où 30 km/h, c'est beaucoup trop lent. Ça, les gens ne supportent pas.
C'est totalement... la vache à lait, là. On est les vaches, pardon. Hein,
oui. Mais là, ce sont des pièges.
Engrange. Ah bah là, c'est.
Mais vous avez raison de dire impactant, qu'il y a des endroits où il faut faire très attention à la vitesse, à l'approche des maternelles, des collèges, des lycées, tout ça. C'est assez logique. En revanche, sur les quais de Seine, ça l'est beaucoup moins.
Ah oui.
Donc c'est une pompe à fric.
Oui, c'est une pompe à fric.
Un peu ça aussi.
Donc quand le 30 août a été mis en place cette limitation, c'était pas seulement pour les mobilités douces, pour engranger derrière l'argent.
Si on fait un petit coefficient multiplicateur, passer de 350 flash à 8800, ça représente un taux de progression qui se compte en milliers de pourcents. C'est quand même incroyable.
Il faut rappeler une chose, c'est que parmi ces chiffres, quand on passe de 50 à 30, je dirais qu'il y a une différence, certes, si vous percutez quelqu'un, vous allez le blesser, mais vous le blessez surtout entre 50 et 70 km/h. 70 km/h, vous pouvez tuer quelqu'un. À 50 km/h, vous pouvez le blesser. Donc c'est sûr qu'à 30, l'impact sera moins important. Mais si vous voulez, c'est quand même cette marge-là, elle est parfaitement contestable. Et à 50, dans la plupart des endroits, c'est tout à fait raisonnable.
Comme il s'agit de Madame Hidalgo, et voilà, je voulais en parler, voilà jackpot, vache à lait.
Mais elle voulait imposer le 50 sur le périphérique aussi.
Mais l'écologie n'est qu'un prétexte en réalité.
Et bien sûr. Alors, quand même un petit sujet. Beaucoup nous regardent et je les en remercie peut-être à l'heure du déjeuner, certainement d'ailleurs, et bon appétit. Peut-être certains sont dans leur jardin, ils ont mis la télé en fond un peu loin pour nous regarder. C'est le retour du soleil.
Et oui, pas à Paris, mais ailleurs, les stations balnéaires font le plein pour ce long pont de l'Ascension, mais... Et oui. Contexte de l'inflation. Contexte économique, inflation, tout le monde fait des choix, arbitrage intelligent entre bien la famille, les enfants et évidemment le budget, l'essence, les carburants, puisqu'on va parler des routes. Nous sommes allés dans une ville touristique grand public de la côte atlantique, Saint-Jean-de-Monts en Vendée, et c'est Mickaël Chailloux qui a la chance de réaliser ce reportage. Regardez.
Saint-Jean-de-Monts, c'est une station balnéaire populaire et familiale de la côte vendéenne. Avec ce pont de 5 jours et le retour du soleil, les hébergements et les terrasses font le plein, mais à la plage, c'est le nom du restaurant. Pas de folie, le ticket moyen stagne autour des 20 euros.
Les gens font quand même très attention, on le sait, on est en continuité depuis le Covid, l'année dernière on en avait parlé. Je pense qu'on est encore sur la même chose, les gens sont frileux, les gens font attention. Il y a toujours un petit peu le pied sur le frein quand même.
Sur le Remblai, cette famille du Maine-et-Loire a pris l'option sandwich face à la mer.
On pique-nique, on va dire, parce que de manière à économiser quand même.
Il y a aussi des budgets et il n'y a pas que les vacances et les journées à la plage, donc faut faire attention comme tout le monde.
Arrivée de Picardie pour 4 jours, cette famille a trouvé un logement de dernière minute, petit prix au camping. C'était la condition, sinon c'est la méthode débrouille habituelle.
Bon, on aurait dormi dans la voiture, voilà.
Vraiment ?
Oui, vraiment. On met un matelas et on a déjà dormi 4 dans ma voiture. Voilà, pour quand même emmener les enfants à la mer.
Si la roue a tourné depuis le Covid et que l'inflation est moins forte, les budgets des vacanciers des classes moyennes sont toujours aussi serrés. D'autant qu'ici, tout le monde a en tête qu'il faut économiser pour les grandes vacances dans 2 mois.
Bien, en fait, on voulait voir les belles images, ça fait du bien. On va marquer une pause, on va se retrouver pour beaucoup de sujets. Je ne l'avais pas prévu, mais je voudrais vous entendre. On n'en avait pas parlé avant-hier ensemble, Régis. C'est hier qu'on a, après l'annonce d'Emmanuel Macron, évoqué le sujet du devoir de visite des pères. Et ce matin, Aurore Berger, il y a un grand sourire de M. Vallini, dit que c'est courageux, que c'est salutaire, que c'est important. Alors que certaines associations disent « attention, c'est dangereux ». Des pères parfois violents vont donc revenir dans le cercle familial, etc. Pas facile comme débat. Non. Vous avez un avis arrêté ?
Non.
Bah, vous avez 2 minutes pour y réfléchir. Ah, oui. Beaucoup d'autres sujets, on vous attend à tout de suite.
On en a parlé hier.
Ouais.
Incroyable.
Midi News, la suite. Merci d'être avec nous. Nous parlerons sécurité dans quelques instants et je salue la présence de Xavier Hofer, criminologue. Merci d'être là et bonjour à vous. Sécurité avec les Jeux Olympiques, mais pas uniquement. Nous évoquerons également l'infiltration et la stratégie des frères musulmans. Gérald Darmanin lance une offensive, mais nous allons voir que déjà, les frères musulmans adaptent leur stratégie d'infiltration, notamment auprès des institutions de justice. Et puis, beaucoup d'autres sujets dont nous allons parler, dont eh bien, toujours le débat autour du sujet du devoir de visite des pères. La ministre en charge de l'égalité femmes-hommes nous en a parlé ce matin et ça provoque beaucoup de réactions. Tout d'abord, place au journal, il est 13h. Rebonjour à vous, chère Soumaïa.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le coup d'envoi du premier relais de la Flamme Olympique à Marseille avec la légende du football, Basile Boli. Un parcours en 8 étapes avec, assuré par 189 personnes dont se félicitent Tony Estanguet et les riverains venus en nombre pour assister à cet événement historique. Écoutez. Vous allez les entendre dans un instant. Tony Estanguet, donc membre du...
C'était très important de commencer ici à Marseille. Quelle ville de cœur, quelle ville de passion, quelle ville de sport. On ne pouvait pas rêver mieux. J'assume mes choix jusqu'au bout et je suis tellement fier de ce qui a été proposé hier soir. Encore une fois, félicitations à toutes celles et ceux qui ont travaillé. Et bravo aux porteurs de la flamme. Merci Colette, merci Didier, merci à celles et ceux qui vont faire rayonner ces Jeux pendant maintenant 3 mois.
Dans la vie d'une personne, voir une flamme olympique, c'est une fois tous les 100 ans. Je ne serai pas là, moi, pour 100 ans. Donc, je dis merci Marseille. Et merci pour l'organisation.
C'est un peu magique, on s'y attendait pas, on a pu arriver au bon moment et puis bah, on est très chanceux, on a pu l'avoir.
Magnifique, voilà, on est content, on est joyeux, comme tous les gens qui sont ici, c'est fantastique.
C'est la flamme olympique, c'est toute une histoire, les enfants, le sport, c'est toute une génération et ça explique, c'est toute une culture, une histoire.
Cette information inquiétante à présent, mort d'un enfant de 3 ans à Mayotte, première victime du choléra depuis le début de l'épidémie. On fait le point sur la situation avec ce sujet signé Mathilde Ibanez.
C'est une maladie infectieuse pouvant être foudroyante. Sur l'archipel des Comores, voisin de Mayotte, le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Selon l'Agence régionale de santé, depuis le début de l'année, 98 personnes sont décédées et plus de 4900 cas ont été signalés. Quand la maladie se manifeste, les patients sont victimes d'une déshydratation accélérée, de diarrhées aiguës, nausées et vomissements. Il faut donc une prise en charge rapide avec une perfusion et des antibiotiques. Sans traitement, le choléra peut être fatal. Le malade peut en mourir rapidement entre 1 et 3 jours. Une infection redoutable pour 10 à 20% des cas, provoquée par l'absorption d'aliments et d'eau contaminés par une bactérie, selon l'OMS.
Il existe un lien étroit entre la transmission du choléra et un accès inadapté à l'eau potable et à des installations d'assainissement.
Dans le monde, le choléra est en forte recrudescence, affectant prioritairement les pays pauvres selon l'OMS, comme la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le Mozambique, la Somalie, le Zimbabwe ou encore la Zambie. En France métropolitaine, cette maladie est devenue très rare. En moyenne, selon le ministère de la Santé, on compte entre 0 et 2 cas par an depuis le début des années 2000.
À la une de l'actualité internationale, une déclaration, je cite, « difficile à entendre et très décevante », estime l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, qui réagissait à la récente menace de Joe Biden de cesser la livraison de certaines armes à Israël en cas d'offensive d'ampleur à Rafah. Et puis les forces nucléaires stratégiques russes, je cite, « toujours en alerte », prévient Vladimir Poutine lors d'un discours commémorant la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. Je vous propose de l'écouter.
La Russie fera tout pour éviter un affrontement mondial. Mais dans le même temps, nous ne laisserons personne nous menacer. Nos forces stratégiques sont toujours en alerte.
Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h, Sonia.
Merci beaucoup, cher Somaya. On vous retrouve tout à l'heure pour les titres pour l'heure avec Xavier Hofer, Sarah Saldman, avec Stéphane Simon, avec Régis Le Sommier, avec André Valigny. On poursuit sur l'actualité. Et puis l'actualité, mise à part la flamme olympique, les belles images hier, Xavier Hofer, c'est évidemment l'aspect sécuritaire. Il y a eu hier quand même une bousculade, on n'en a pas beaucoup parlé, même si la fête était belle. Il y a eu une bousculade, un mouvement de foule qui a inquiété. Et puis il y a tous les aspects, si je puis dire, sécuritaires. C'est-à-dire comment on va pouvoir sécuriser au passage de la flamme, comment on va aussi, par rapport à la capitale, peut-être déshabiller d'autres villes sur les forces de sécurité. Je vous propose de regarder le sujet de Maxime Lavandier, puis vous nous direz justement la mise sous tension des forces de sécurité, à quel point aujourd'hui elle inquiète ou pas. Regardons.
Un dispositif de sécurité exceptionnel pour un événement exceptionnel. Rien qu'à Marseille, où la flamme est arrivée hier en fin de journée devant 150 000 personnes, 6 000 forces de l'ordre ont été mobilisées.
C'est inédit, c'était important bien sûr de sécuriser au maximum cette journée. Quand on se souvient de la venue du pape, on avait 4 500 policiers et gendarmes pour sécuriser sa venue.
La flamme empruntera un long parcours de 12 000 km avec plus de 400 villes traversées en métropole et en outre-mer, jusqu'à son arrivée à Paris le 26 juillet pour la cérémonie d'ouverture. Tout au long de son parcours, un dispositif hors norme sera formé autour du porteur de la flamme. Au sein de cette bulle, une centaine d'hommes et de femmes protégeront la flamme tous les jours. 18 coureurs, une voiture et 12 motos ouvriront le cortège, appuyés par des unités mobiles, un véhicule de lutte anti-drone et le GIGN.
Tout est regardé, tout est sécurisé. Ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements de la part des policiers et gendarmes. Ça va être une mobilisation intense. Rien n'est laissé au hasard.
Un long défilé qui coûtera à l'État pas moins d'1 million d'euros.
Bien, nous parlerons tout à l'heure de la stratégie d'infiltration des frères musulmans avec le risque aussi in fine terroriste. C'est ce qui peut aussi inquiéter Xavier Hofer, évidemment, dans cet énorme événement mondial, planétaire. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé hier déjà est rassurant. On a vu des forces de sécurité très présentes, mais à la fois très discrètes. C'est le savoir-faire français. Est-ce que vous le diriez ainsi?
Oui, et il faut être confiant. Pour une raison bien simple, c'est que la police française, et singulièrement la préfecture de police, est la force de police à l'occidentale, bien entendu à l'européenne, la plus ancienne du monde. Pourquoi le mot police sert-il dans tous les pays d'Europe? Polizei, policia, police, etc. Parce que la façon de faire la police moderne a été inventée en France. À l'endroit même où il y a la préfecture de police aujourd'hui, il y a eu, sous Louis XIV, la lieutenance de police. À l'époque, Paris était la plus grande ville d'Europe. C'était un peu le bazar. Et notre police est la plus ancienne du monde européen, en tout cas. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme elle est très ancienne, elle est très robuste. Et elle est naturellement ancienne, donc un peu souvent dans la routine, mais elle a toujours été là et elle a toujours été meilleure la deuxième fois que la première. Il y a eu l'épisode regrettable au Stade de France, où on a commencé à nous dire que c'était des supporters anglais. En réalité, c'était les voyous des Framboisins à côté du stade qui s'étaient fait plaisir. Mais bon, là, le premier échec a entraîné une révision et je pense que cette fois-ci, cette police qui n'a pas toujours été très bien dirigée au niveau ministériel, elle est capable de faire et elle tiendra le choc, j'en suis persuadé, jusqu'à la fin des Jeux Olympiques, dans des conditions difficiles.
Oui, mais véritable pari, hein, sécuritaire, oui, politique, oui, aussi, hein, d'ailleurs.
Bien, évidemment.
Et évidemment. Et ce qui est assez, comment dire, hier, c'était, ça nous a tous interpellés, en tous les cas moi, c'était le nombre, connaissant le nombre des forces de sécurité et presque leur aspect invisible, c'est-à-dire qu'ils se sont fondus dans le décor, à des postes stratégiques, je suppose. Et c'est ça qui nous interpelle, c'est-à-dire une présence extrêmement forte par le nombre et extrêmement discrète par la présence, justement.
Mais c'est ce qu'on leur demande, c'est ça le savoir-faire. Ils ne sont pas là pour gâcher la fête des gens, être présents partout, interdire. Ils sont là pour être présents quand il faut et dans la discrétion et dans l'efficacité.
Alors,
ce qui s'est passé hier est impressionnant à ce propos.
Malgré tout, certains élus sont inquiets avec la cérémonie d'ouverture. Là, on parle de l'ouverture de la cérémonie dans la capitale. Que va-t-il se passer pour d'autres villes ? Certaines villes, on en a parlé hier, comme la Baule, se sont équipées, ont anticipé pour leur police municipale armée, parce que des forces de sécurité vont devoir se déplacer. Et surtout, il y a une forme aussi de recrudescence, de cambriolage, de méfaits. Alors, sont-ils liés ou pas, je ne sais pas, hein, au déplacement de certaines forces de sécurité? En tous les cas, il y a un fait qui nous a interpellés, qui depuis quelques mois s'aggrave. C'est des cambriolages qui visent, par exemple, le secours populaire. C'est la troisième fois en quelques mois qu'un centre de stockage, de nourriture, de vêtements est cambriolé. Hasard ou pas, on ne sait pas, mais en tous les cas, ceux qui sont en charge de ces lieux et du secours populaire s'inquiètent que les forces de sécurité soient déplacées et puissent quand même déserter certaines villes, petites communes. Regardez ce sujet où les bénévoles sont encore sous le choc à Bourgoin-Jallieu. C'est un sujet de Mickaël Dos Santos.
Des cartons éventrés, des produits volés, d'autres salis endommagés, éparpillés sur le sol. Lundi, les bénévoles de ce local isérois du secours populaire ne pouvaient que constater les dégâts.
Il y a eu un temps assez long de sidération. C'est du brigandage gratuit, c'est même scandaleux. Tout le travail effectué par les bénévoles est anéanti en quelques heures. Et c'était assez difficile d'avoir ce paysage devant nous, là, cette dévastation.
Au total, plus de 200 cartons avec des vêtements, des jouets, mais aussi des meubles ou encore des appareils électroménagers. Tous destinés à être vendus pour récolter des fonds. Pour cette antenne locale du secours populaire, les pertes sont importantes.
On ne doit pas être loin de 5000 euros, je pense. Cet argent qu'on n'aura pas là sera en moins pour acheter notamment des produits alimentaires parce que le nombre de familles aidées augmente considérablement. Les enseignes donnent de moins en moins de produits alimentaires et nous sommes obligés d'acheter chaque semaine 200 à 300 euros de fruits et légumes.
Dans les prochains jours, un appel aux dons va être lancé au niveau départemental pour tenter de pallier ce manque à gagner. Les auteurs de ce vol, eux, n'ont pas été interpellés.
Ça peut paraître, pas du tout pour les bénévoles et pour ceux qui ne vont pas bénéficier de ça, anecdotique, mais c'est la troisième fois en 6 mois qu'un centre de secours populaire est cambriolé. Bon, ça confirme ce qu'on sait déjà, rien n'est sanctuarisé, tout peut être attaqué, cambriolé, violenté, etc. Mais est-ce qu'il y a une spécificité? Pourquoi ces centres, Xavier Hoffer?
Parce que c'est une véritable caverne d'Ali Baba. On y trouve toutes sortes de choses. On y trouve des objets qu'on peut revendre après et surtout, on en trouve des objets avec lesquels on peut se nourrir soi-même. Il y a naturellement aucune espèce de fatalité, mais j'observe que dans les cambriolages en question, jusqu'à présent, quand il y a eu des arrestations, c'était des clans de nomades criminalisés, où ils trouvent tout ce qu'il leur faut, de quoi se nourrir et de quoi revendre. Voilà, aussi simple que ça.
On voulait apporter
rien à
notre
voir
soutien,
avec
les... parce que véritablement, on ne se rend pas compte du temps qu'il faut, de l'énergie, du temps, des efforts, évidemment. Et oui.
Non, mais c'est vraiment des images qui font mal au cœur, parce que là, c'est vraiment l'illustration de ce que le président appelait la décivilisation. C'est-à-dire que là, ce sont des produits de nécessité destinés aux plus pauvres et aux nécessiteux qui sont volés par d'autres nécessiteux et qui mettent ça dans un état, vous voyez, c'est un spectacle de désolation absolue. C'est d'une tristesse infinie et c'est vraiment l'illustration de la barbarie, ces images.
Et puis... il y a moins de 10% des cambriolages qui sont élucidés, donc a priori, ces personnes ne seront pas retrouvées, pas sanctionnées et en plus sont insolvables.
Exactement.
Donc, il n'y aura même pas de sanctions, c'est l'impunité totale, donc c'est la porte ouverte pour recommencer. Moins de 10% des cambriolages élucidés, ça en dit très long, et un cambriolage dure en moyenne moins de 5 minutes. Bon, là, c'était peut-être un petit peu plus long, mais pour dire que ça va très vite, il y a très peu de sanctions.
Ça affecte aussi les Restos du Cœur, vous savez, et la dernière fois, ceux dont je parlais avaient aussi volé les moteurs des camionnettes. Ouais. Voilà. C'est-à-dire les camionnettes qui servent à desservir justement les gens qui en ont besoin. Alors, ça s'aggrave encore parce qu'aux dernières statistiques, c'est 7%. Donc, vous avez 9,3 chances sur 10 de cambrioler ce que vous voulez, de rentrer chez vous les mains dans les poches.
Il y a parfois des mineurs...
Pardonnez-moi, ces chiffres sont une incitation au cambriolage.
Souvent, ce sont des mineurs isolés. Vous me confirmerez, mais ce sont des mineurs isolés qui cambriolent, qui se faufilent parfois par des fenêtres. Et qui sont encore...
Il y avait un disciple un peu oublié de Emmanuel Kant, qui s'appelait Lichtenberg, qui était un philosophe aussi, qui avait inventé la formule du couteau sans lame dont on a retiré le manche. Vous voyez, bien, les mineurs isolés, c'est la même chose, ça. Parce qu'ils sont ni mineurs ni isolés.
Bien sûr. Voilà. Et là, on ne sait
ils
pas de
meutes,
de quoi
sont des jeunes adultes.
Il s'agit.
Il y a beaucoup aussi, il y a des personnes, je pense notamment aux époux tapis. Voilà, donc il y a aussi cette version-là, entre guillemets, du cambriolage qui est très très violente.
Tout à fait.
Non, ce qu'il faut voir, c'est si ces zones qui sont relativement peu sécurisées, en fait, vont pas être à risque à mesure que les Jeux Olympiques arrivent et que le défi sécuritaire va être attiré par d'autres endroits. C'est-à-dire que, est-ce qu'il va pas y avoir justement une carence?
Oui, et puis un effet d'opportunité des cambriolages.
Sur l'arrière, dans les zones qui seront pas surveillées ou moins surveillées, il va pas y avoir justement une recrudescence de ce type d'activité.
Langage des assurances, on dit un effet d'aubaine.
Exactement, j'ai cherché le mot, merci de l'avoir précisé. Alors, très important, il y a quelques jours, nous en parlions ici même, le ministre de l'Intérieur lance une offensive dans le journal du dimanche contre les frères musulmans. On le précise, une idéologie islamiste qui infuse la société française et d'autres sociétés, selon une source au sein du renseignement français. Leur objectif, je cite la source, est d'instaurer, je cite, un califat mondial dans laquelle la loi de Dieu régit tous les aspects de la vie humaine. Et pour cela, ce n'est pas nouveau, ça se passe dans toutes les sociétés que vous connaissez très bien aussi, Régis Le Sommier, eh bien, ils tissent une toile d'araignée, ils infiltrent un petit peu tout, la fonction publique, les institutions de justice, etc. On va écouter Claude Modiquet, vous nous donnerez aussi votre lecture, parce que véritablement, c'est une mise en garde d'une sorte de, comment dire, d'occupation à la fois des institutions et des esprits dans ces institutions. Mais tout d'abord, les titres avec vous, cher Somaïa.
C'est l'une des principales informations de la journée. Coup d'envoi du premier relais de la Flamme Olympique à Marseille avec la légende du foot Basile Boli depuis Notre-Dame de la Garde. Un parcours en 8 étapes assuré par 189 personnes, dont des champions et médaillés olympiques, un marin-pompier ou encore un artiste drag queen. À l'occasion de la Journée de l'Europe, l'Arc de Triomphe et des monuments emblématiques de lieux illuminés avant les élections européennes et floqués du slogan « Utilisez vos voix ou d'autres décideront pour vous », manière de rappeler aux électeurs le scrutin du 6 au 9 juin prochain. Et puis alors qu'il lutte contre un cancer, le roi Charles III a fait une apparition rassurante, tout sourire aux côtés de son épouse, la reine Camilla, hier après-midi à l'occasion de la garden party que le couple royal organisait, dont vous découvrez les images à l'écran.
Merci Somaïa. Tout à l'heure, la stratégie des frères musulmans, d'ailleurs, qui est explicitée dans un livre à succès, celui de Florence Bergeau-Blaclair sur les réseaux fréristes, eh bien, c'est le renseignement qui tire la sonnette d'alarme. Écoutons le spécialiste Claude Moniquet à ce sujet.
Il est tout à fait logique que les frères musulmans aient besoin d'avocats, puisque leur cause aujourd'hui en France, et d'ailleurs hier en Europe, c'est promouvoir les progrès de la charia, c'est défendre les jeunes femmes qui portent le voile, c'est défendre la baïa, et beaucoup et de plus en plus, ce sera défendre les gens qui se battent pour la cause palestinienne ou plus exactement contre Israël. Donc il y a un besoin, il y a des recours en justice, il y a des procès, il y a un besoin d'avocats. Et là, il faut faire une distinction dans l'islamisme radical. Il y a deux courants, il y a les salafistes qui prônent uniquement la rupture, on n'entre pas dans la société, rupture religieuse, rupture violente, et les fréristes qui, eux, sont des entristes, comme les trotskistes l'étaient dans la politique à gauche il y a 30 ans, et qui vont donc investir les structures, soit des structures d'État, les structures sociales, les syndicats, les entreprises, et donc recruter des jeunes qui font de bonnes études, qui sont intelligents, qui sont capables de se débrouiller dans la société et de la combattre, de la subvertir de l'intérieur.
Et je précise que le renseignement français donc a identifié un vaste, dit-il, en tous les cas, réseau d'avocats, tous acquis ou proches de la cause des frères musulmans et qui sont prêts à venir en aide aux frères musulmans dans leur démarche administrative. Maître, je veux dire, alors
je ne fais pas si partie vous en de avez, ses confrères. Hein, je
si vous en avez pas. Côtoyé, si vous-même vous êtes au courant de cette infiltration.
Alors je n'étais pas du tout au courant et le Conseil de l'Ordre, en tout cas de Paris et peut-être des autres barreaux, sont très actifs pour surveiller ce que disent les uns et les autres à la télévision. J'espère qu'ils le seront tout autant pour ses confrères qui sont apparemment infiltrés. Après, je ne vais pas juger mes confrères, ce n'est pas mon rôle, mais je suis assez surprise. Je préciserai aussi que Gérald Darmanin mène une guerre assez soutenue contre les frères musulmans et on peut le saluer. Et que Sébastien Kurz en Autriche avait fini par réussir à les interdire. Donc je pense que si on veut vraiment, on peut aussi y arriver.
Alors c'est intéressant, hein, la stratégie, arrêtons-nous, parce que ces avocats dits proches de la confrérie, comment ça se passe? Ils interviennent et
Est-ce qu'ils sont rémunérés déjà?
Je ne sais pas. En tous les cas,
c'est alors, peut-être pro bono.
C'est intéressant.
C'est une question. Est-ce que c'est par idéologie?
Mais non, je pense que non.
C'est pro bono. Oui. Ou alors ils font une convention d'honoraires et une facture. Ouais. On a le droit de faire du pro bono. Hein. C'est pas du tout une
critique.
Tout à
fait. Je pense qu'ils.
Je pense que c'est la première hypothèse et que c'est du pro bono.
Oui. Et ils s'approchent. En tous les cas, ils sont proches de certaines associations qui peut-être elles s'occupent de l'aspect financier, certains clients et certaines causes. Oui, Stéphane.
Non, je pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, je pense qu'ils travaillent pas tous pro bono dans l'affaire. Qui m'a concerné, qui m'a intéressé, qui est l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty, on a vu que les mises en cause avaient créé des cagnottes et ces cagnottes servaient à payer les droits de la défense.
Vous avez raison.
Donc ce n'était pas pro bono, ouais. Là, en l'occurrence. Mais il faut dire aux téléspectateurs que les frères musulmans mènent un combat d'infiltration qui est double. D'une part, dans l'éducation nationale, le combat est porté pour que on puisse porter l'abaya, le voile à l'école et que l'on stigmatise les professeurs qui enseignent la liberté d'expression, le droit au blasphème, etc. Et qu'on drape tout ça de l'accusation d'islamophobie. Et puis, il y a le combat, effectivement, dans l'institution judiciaire qui est double. C'est à la fois un combat d'infiltration à des postes importants et puis c'est un combat, ce qu'on appelle le djihad judiciaire, qui consiste à attaquer tous ceux qui expriment un point de vue en les taxant aussi d'islamophobie et de multiplier les cas
d'espèce. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire parce que là, c'est tout à fait... ils ont le droit de représenter...
Ah oui.
Ils sont inscrits au barreau, ils ont le droit de représenter leurs clients, Xavier Rocha.
S'il n'y a pas de manquement déontologique...
Ce qui est un peu étonnant, c'est la façon dont certains semblent un peu découvrir la Lune. Les frères musulmans ont été créés il y a un siècle. Un siècle. Ils ne sont pas là depuis hier matin. Dès le départ, il y a une espèce d'ambiguïté totale dans leur militantisme. Premièrement, ils sont créés dans la zone, à l'époque du canal de Suez, sous contrôle britannique. Ils ouvrent un registre de cotisation et la première cotisation qui tombe, c'est la société du canal de Suez, c'est-à-dire les services de renseignement britanniques sous un autre nom. Hein. Alors il y a l'espèce d'ambiguïté avec on est anticoloniaux mais on touche des sous quand même de la puissance coloniale. Et deuxièmement, constamment, ça on le sait, notamment par Yasser Arafat, qui a été dans l'organisation armée des frères musulmans avant de fonder le Fatah palestinien, une espèce d'ambiguïté aussi et de complicité soutenue avec les islamistes chiites de Perse, avec les Iraniens. Ils ont toujours été sur cette double ambiguïté-là. Et deuxièmement, on n'a jamais su, ou plutôt si on l'a appris récemment, mais ça prendrait un peu de temps à développer pleinement, l'espèce d'ambiguïté totale entre de soi-disant scissions qui prétendaient et qui pratiquaient la lutte armée comme le djihad islamique et les frères musulmans. Et sans entrer dans les détails, le quasi-coup d'État du général Sissi, c'est quand ils ont découvert la preuve qu'au moment où le grand démocrate qui était le futur président, puis président des Frères musulmans d'Égypte, qui s'appelait M. Morsi, qu'en même temps, il disait, mais la lutte armée, mais quelle horreur, mais nous sommes des pacifiques. Et il continuait à avoir des contacts avec les gens.
D'accord. Et maintenant, mais la stratégie, vous avez entièrement raison, c'est vieux, c'est très très vieux. Et la stratégie des Frères musulmans, c'est l'entrisme et la démographie aussi. Oui. Est une composante aussi, comment dire, l'infiltration se fait à deux niveaux. Alors si on est au courant qu'il passe par des avocats, par des associations... Mmh. Par des, je lis aussi des commissaires aux comptes. Qu'est-ce qu'on fait?
Moi, je trouve que la conclusion de tout ça, c'est qu'on s'y prend un peu tard. Et qu'on a beau, en effet, mettre en avant les propos de Gérald Darmanin qui, de façon sempiternelle, a l'impression de redécouvrir les choses. Hein. C'est des gens qui sont quand même au pouvoir depuis 7 ans. Emmanuel Macron a fêté ses 7 ans au pouvoir. Et là, on se dit, oui, non, voilà, on va enfin prendre des mesures pour lutter efficacement contre les Frères musulmans.
Quand vous dites prendre des mesures, pour l'instant, c'est commander encore un rapport. On en est encore là.
Comme ça,
alors que c'est documenté depuis très longtemps.
Ouais. Et les mosquées n'ont pas toutes été fermées, etc. Même s'il y a un travail quand même significatif qui a été fait. Non, moi, je rajouterais sur les Frères musulmans qui a un grand exemple. Il y a plusieurs exemples historiques des Frères musulmans. Il y a des exemples historiques, Xavier Hoffer le rappelait, sur l'arrivée de Mohamed Sisi après Morsi, justement, au pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir égyptien, c'est bâti contre les Frères musulmans et que les Frères musulmans ont démarré en Égypte, hein, Hassan Banna dans les années 20 a fondé c'est une confrérie, mais c'est une confrérie qui est très vaste.
Qui est liée à Tariq Ramadan.
C'est son petit-fils.
Voilà, c'est ça.
Mais que la confrérie des Frères musulmans, il y a une branche modérée et puis il y a une branche beaucoup plus radicale. Ayman al-Zawahiri, qui était le numéro 2 d'Al-Qaïda, était un médecin égyptien issu des Frères musulmans, et je rappellerai pour terminer que le Hamas a appliqué à la lettre pour conquérir la bande de Gaza le programme des Frères musulmans.
Par l'aspect social.
L'aspect social.
Mais comme infiltrant les islamistes,
jouant la carte électorale également. Donc à chaque fois, en fait, le principe d'Hassan Banna, c'est de dire c'est d'utiliser la légalité.
Donc
l'entrisme,
il se love dans notre démocratie, il passe par les lois et les voies démocratiques.
Tout à fait, à la différence des wahhabites qui, eux, le djihadisme d'obédience saoudienne, on dirait influencé, qui, lui, par contre, prône la rupture totale et la destruction des sociétés. Mais la finalité est la même, c'est la Oumma, c'est le califat mondial.
André Valigny, pardonnez-moi, j'arrive, monsieur Hoffman.
Oui, je pense qu'il faut être très vigilant, effectivement, face à l'entrisme des Frères musulmans. Je pense qu'il mieux vaut tard que jamais. Le gouvernement semble avoir pris conscience du problème, mais il y a un motif d'espoir. Ah. C'est ce qui s'est passé à Istanbul, aux dernières municipales, où malgré l'entrisme, l'activisme soutenu par Erdogan des Frères musulmans, eh bien Erdogan et ses amis politiques ont perdu les élections.
Vous avez entièrement raison, mais je ne sais pas si la menace, paradoxalement, va venir de ces pays-là. Moi, je vois plus du côté de la Grande-Bretagne, où des maires ont salué leur victoire au cri de Allahu Akbar. Et je me souviens d'une alerte, d'une mise en garde du ministre des Affaires étrangères émirati qui a dit « Mais attention, les radicaux ils vont venir d'Europe aujourd'hui et nous avons peur d'une forme de, pardon, de,
pire, les émiratis
de soumission
ont pris
de
les moyens, eux.
Mais vous avez raison de souligner ça, monsieur Valigny.
Il y a certains pays arabes qui ont...
Non, simplement en deux mots, pour tout résumer, vous avez d'un côté les salafistes et Bin Laden et Al-Qaïda qui disent clairement qu'ils vont nous tuer. Les Frères musulmans, eux, veulent nous endormir.
Eh oui, c'est ça. Et ils sont en train de le faire. Parce que l'offensive, moi j'ai lu, on a tous lu attentivement, c'est-à-dire qu'il y a l'offensive du ministre de l'Intérieur, il y a juste avant la note de renseignement qui avait fuité, c'est Europe 1 qui avait fuité, et véritablement c'est le renseignement, c'est pas une construction intellectuelle.
Vous voyez, la preuve qu'il ne nous endorme pas, c'est qu'on en parle aujourd'hui.
Mais non, mais c'est ce qu'ils tentent de faire.
Oui, je sais bien, mais ça ne marche pas.
La réussite, sans doute, n'est pas
sûre. Ils ont quand même infiltré. Là, on est en train de se rendre compte de la gangrène.
Par l'intermédiaire de certains de nos...
Vous avez raison.
Ce qui est terrible, c'est qu'ils utilisent des principes démocratiques, la permissivité de nos sociétés, la liberté qui reste.
Mais quelle est la parade?
Contre cette même démocratie.
Quelle est la parade? Si vous touchez à l'état de droit, on vous dit, non mais regardez, attention, vous touchez à l'état de droit, et qu'est-ce que vous devenez?
Du coup, vous avez des avocats qui viennent les défendre, etc.
Je ne fais pas partie des avocats.
C'est ce dont vous parliez tout à l'heure. Comme ça. Je vous avais en Tunisie, j'ai discuté avec des dirigeants d'Annahda et ils me disaient, mais Tu vois, en Allemagne, Madame Merkel, c'est une démocrate chrétienne. Nous sommes des démocrates musulmans. Pourquoi nous accuser de choses que nous ne faisons pas, etc. Ils essayent.
Ghanouchi Danada qui avait dit et qui a théorisé cette phrase comme d'autres, c'est-à-dire nous avons le temps et puis les Occidentaux ont la montre. Ah, voilà, ouais. Tout est dit.
Vous avez l'heure, nous avons le temps.
Mais on l'avait dit avec Erdogan, on l'avait dit avec Ennahda, on avait cru à ces
mais exactement, souvenez-vous comment Erdogan était présenté il y a 15 ans.
Musulmane.
Et oui, on avait dit, mais regardez, formidable, regardez le PIB, l'économie turque, et puis on n'a pas regardé ce qui se passait dans les mosquées.
Avec la différence quand même qu'Erdogan, il a exterminé les frères musulmans chez lui maintenant.
Oui, je crois que monsieur, que le général... Kelsici, c'est la même méthode.
Oui.
Nous sommes en France. Démocratie, et on va voir quelle méthode, quel sursaut. Une courte pause. Une courte pause, et on se retrouve à tout de suite. La suite de Midi News avec tout d'abord, et du débat, mais tout d'abord le rappel des titres avec Somaïa Labidi.
À la une de l'actualité, le coup d'envoi du premier relais de la Flamme Olympique à Marseille avec la légende du foot Basile Boli comme premier porteur. Parcours en 8 étapes assuré par 189 personnes, dont des champions et médaillés olympiques, un marin-pompier ou encore un artiste drag queen. À l'occasion de la Journée de l'Europe, l'Arc de Triomphe et des monuments emblématiques de l'Union européenne illuminés avant les élections européennes et floqués du slogan « Utilisez votre voix ou d'autres décideront pour vous », manière de rappeler aux électeurs le scrutin du 6 au 9 juin prochain. Et puis alors qu'il lutte contre un cancer, le roi Charles III a fait une apparition rassurante, tout sourire aux côtés de son épouse, la reine Camilla, hier après-midi, à l'occasion de la garden party que le couple royal organisait, dont vous découvrez les images à l'écran.
Merci beaucoup, cher Somaïa. On a aussi découvert les images là d'incitation pour aller voter aux européennes. Je me demande si cet affichage sur les monuments est de nature à provoquer un sursaut, vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres campagnes à faire? On les verra tout à l'heure, on en parlera, vous me direz si c'est utile ou pas. Monsieur Hoffer, on a parlé de ce sujet tout à l'heure, mais je voudrais vous entendre, parce que vous connaissez bien l'histoire de certains pays, et c'est le débat qui fracture une partie de la jeunesse. Nous avons évoqué ce qu'a dit Rima Hassan, candidate LFI aux européennes, qui a fait la comparaison entre la Palestine et l'Algérie. Ce que fait Israël à la Palestine n'est pas très différent de ce que la France faisait à l'Algérie. Il y a en ce moment beaucoup de comparaisons historiques, complètement... pour certaines indignes, on a entendu Place de la République, Gaza, Treblinka et Varsovie, effectivement. On a vu aussi Gaza, Vietnam. Il y a maintenant cette comparaison. De quoi c'est le révélateur, selon vous, aujourd'hui? Est-ce que c'est une inculture totale, une ignorance, une mauvaise foi?
Peut-être c'est les trois de la propagande à courte vue, quoi. Ça rime à rien. Il est évident que vous occupez... un territoire suite à une série d'attentats graves sur des civils. Hein. Naturellement, ça n'a rien à voir avec la situation entre une guerre de libération suite à une présence d'un siècle et demi, etc. On ne peut pas comparer les choses, c'est de la propagande pour les réseaux sociaux. Quoi. Ça va
pour les réseaux sociaux et qui essaiment dans de nombreuses universités américaines, françaises, belges, puisqu'on a appris que l'historien israélien Eli Barnavi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une figure de la paix. Alors là, les propos sont équilibrés, nuancés, chacun peut penser ce qu'il veut de M. Barnavi, mais c'est quand même une autorité, c'est une figure. Eh bien, il est empêché par certains, toujours les groupuscules, etc., une minorité, mais semble-t-il agissante et bruyante, de tenir conférence là pour dans quelques jours ou quelques semaines à l'Université libre de Bruxelles.
Alors même que M. Barnavi est en pointe, si j'ose dire, dans la critique de Netanyahou et de la
l'un des plus critiques
et de la colonisation.
Je crois que c'est
quand même bien sûr.
Il reste plus grand opposant.
Oui. Ça vise à essentialiser les gens. C'est
incroyable.
Vous êtes professeur, vous êtes juif, donc.
Mais qui pourra encore parler dans les universités?
Peu importe ce que vous dites.
À part Madame Hassan, qui?
Moi, je voudrais.
Et en Belgique.
Je voudrais rappeler que dans la comparaison, on a quand même atteint l'infâme il y a quelques jours quand on a vu une manifestation à Auschwitz de pro-palestiniens. Si vous voulez, quand on est là à comparer, vous êtes passé à côté de ça, tant mieux quelque part, mais on est quand même dans le sublimement horrible et dans le détestable. Mais vous savez, Madame Rima Hassan, je voudrais quand même porter à votre connaissance qu'il y a quelques années encore, elle partageait les tweets de Monsieur Alain Soral. On en est quand même là aussi. Elle a fait la publicité d'égalité et réconciliation, qui est quand même un sommet d'antisémitisme. Donc, si vous voulez, on est là face à des gens qui ne s'embarrassent pas de nuances, de connaissances historiques et encore moins de dignité.
Mais pardonnez-moi, je reviens sur la figure d'Elie Barnavi, donc qui est, c'est un appel au boycott, pour être plus précise, de la part, enfin, sur le campus de l'Université libre de Bruxelles. Enfin, c'est indigne, vraiment. C'est, quelle que soit la personne, mais qui, je pose l'accent, qui pourra encore, et vous imaginez,
qui pourra encore un jour venir. Il y a un droit de parler ou de censurer, qui est l'autorité qui permet de dire qui peut parler, qui ne peut pas parler, et sur quoi on se fonde, sachant que cette personne est quand même extrêmement nuancée et tout.
Oui, mais alors justement, est-ce que la conférence va être interdite? Ce n'est pas sûr. J'espère que les autorités belges vont faire en sorte que la conférence ait lieu.
Monsieur Barnavi, il y a encore quelques jours, je lisais dans Le Monde, je pense que c'était il y a 5 jours, je crois que je l'ai lu, c'est un appel à la solution à 2 États, extrêmement dur.
Mais il n'y a pas plus nuancé que lui.
Mais Benjamin Netanyahu, c'est pas la première fois en Belgique. Éric Zemmour et Viktor Orban avaient été interdits d'ailleurs de s'exprimer, et finalement ça avait été autorisé devant le tollé médiatique que ça avait fait.
Alors, la Belgique,
la liberté de parole est très très menacée.
On vient de parler de la pénétration et de l'infiltration des frères musulmans. Comment on peut expliquer aujourd'hui une forme de tenaille, mais je veux dire main dans la main, de certains wokistes, Xavier Hofer, et des islamo-gauchistes, si je puis dire? Comment expliquer une porosité avec des combats qui, quand même, à un moment, vont s'entrechoquer, s'opposer, et on voit bien qu'ils ne peuvent pas marcher ensemble pendant très longtemps?
D'abord, à les écouter, j'observe qu'on a quand même une première porosité, c'est celle de jeunes Européens aux sottises les plus effroyables de la sous-culture américaine. Quand je pense qu'on en arrive maintenant à considérer des messieurs déguisés en dames ou l'inverse comme des héros de la libération mondiale, on se frotte les yeux, quoi. Alors, si Sciences Po avait bien fait son travail depuis 20 ans, si les universités où ça se produit, parce que c'est toujours sociologie, machin, etc., le CNRS, qui est une immense maison dans les sciences dures, tolère aussi dans les sciences humaines des hurluberlus notoires qui racontent strictement n'importe quoi. Et il y a quand même, enfin, le simple principe de réalité ne s'applique plus.
Est-ce que c'est
plus
trop tard toujours?
Non, rien n'est trop tard.
Trop tard, non.
Rien n'est trop tard. Tout ce qui relève de la politique relève d'une méthode, qui est la décision. Vous prenez une décision... Oui. Facile, vous vous y tenez moins facile, et à partir de ce moment-là, ça s'arrête.
Mais vous avez tout dit, sauf que la prise de décision procède d'abord d'une autorité. Ah, et que voilà. Si elle est déconstruite, ou elle n'est pas reconnue, elle est délégitimée, c'est terminé. Donc comment aujourd'hui la direction provisoire de Sciences Po peut-elle prendre une décision après avoir laissé faire un town hall où, de l'aveu même du directeur provisoire, il a été dit certaines choses qui ont heurté des étudiants, et on imagine que ces étudiants, ce sont les étudiants français juifs.
Bien sûr, mais au-delà de ça, Sciences Po, vous venez d'évoquer un homme déguisé en femme, etc. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de ce personnage qui s'appelle Arnaud Gauthier, qui était intervenu dans une émission de Daniel Schneiderman et qui défendait les non-binaires. Oui. C'est-à-dire qu'il disait, il était habillé, il avait une barbe, et il disait, mais de quel droit vous permettez-vous de me qualifier d'homme? Eh bien, ce Arnaud Gauthier...
D'ailleurs, je ne me permettrai pas de vous qualifier.
Moi, mais ce Arnaud Gauthier gère le programme des bourses Erasmus de l'université.
Mais ça
nous
fait du bien de sourire un peu.
Non, mais il élabore, ça c'est son profil, il élabore les stratégies de sensibilisation novatrice pour mieux faire connaître le programme de l'université aux groupes sous-représentés. Vous imaginez ce que ça veut dire?
Arrêtez là, n'en jetez plus.
Et ça permet d'augmenter le nombre de candidatures provenant d'horizons défavorisé. Donc voilà, donc il n'est pas simplement, c'est pas simplement un militant d'une cause en particulier, ils sont dans les rouages aussi.
Mais parfois par l'humour, un sketch de Florence Foresti qui est formidable. Alors, les noms genrés, les noms, etc. Elle dit, moi, je vais être non-âgée. C'est génial. Je trouve que c'est la meilleure réponse. Ça nous va. Ça serait bien. Ad vitam aeternam, non-âgée.
Me considère comme une libellule et ça va bien.
Bon, continuez de papillonner sur ce plateau. Alors, justement, là, on va parler. Alors là, Emmanuel Macron, il a été clair. Il dit il faut un père. Il dit il faut un père. Et pour des tas de raisons, pour l'équilibre, pour d'autres raisons. Et donc, il veut instaurer le débat ouvert d'un devoir de visite des pères dans les familles monoparentales. Avalanche de réactions. Tout le monde a un avis sur le sujet. Essayez, si vous êtes à table en ce jour férié. Enfin, je ne veux pas provoquer de polémique dans la maison, finalement. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Chérie, éteins, il y en a marre de cette journaliste. Mais il y a beaucoup d'associations, et là, c'est plus sérieux, qui se sont alertées en disant « Mais ce n'est pas possible. Vous faites entrer le loup, si je puis dire, dans la bergerie. C'est le retour des pères démissionnaires, pour certains nocifs et violents. » Vous avez un avis, Monsieur Hoffer ?
Oui, je pense que c'est la même chose de dire de... c'est les faux débats sociétaux, la jeunesse devient violente, les pères doivent être là. Chacun sait qu'il y a deux France. Il y en a une qui fait 90% du territoire où les choses se passent encore à peu près normalement, et une où les enfants violents n'ont pas de père, une où les gens se poignardent ou poignardent leurs copains, où la police et la justice n'interviennent plus. Donc ils parlent dans le vide parce que là où il faudrait agir, Sevran, vous avez vu les homicides à Sevran, il n'y a pas de commissariat de police à Sevran. Dieu sait si Mme Clémentine Autain n'est pas une de mes héroïnes favorites, mais elle a raison de dire, enfin, pourquoi il n'y a pas de commissariat de plein d'exercice ?
Nous sommes d'accord.
Ça fait 50 ans qu'il en faudrait un. Alors pourquoi continue-t-il à accumuler les propositions ? Il n'y a qu'un faucon, alors que le fait de pouvoir réaliser ce qu'il théorise n'est pas possible à l'endroit où il le faudrait. Pourquoi l'8e arrondissement grouille de poulet et pourquoi il n'y en a aucun à ce
policier, au cas où il y a quelqu'un qui n'aurait pas compris, je crois que tout le monde a compris, mais je suis le décodeur par Manon. Oui. Oui, merci cher Xavier, on avait compris, il parle à la joule. Ouais. Non, mais alors, la ministre en charge de la lutte contre les discriminations et de l'égalité femmes-hommes m'a dit ce matin, Robert Berger, c'est courageux, c'est salutaire, c'est important, c'est indispensable ce que veut instaurer Emmanuel Macron.
Bah, la réflexion d'Emmanuel Macron, elle part, me semble-t-il, d'un constat pendant les émeutes que les enfants étaient issus de familles monoparentales. Le constat, le bilan, c'est celui-ci. Sauf que les pères démissionnaires, vous les retrouvez aussi bien dans la haute bourgeoisie. Ce sont des gens comme vous et moi, enfin plutôt vous que moi d'ailleurs.
Écoutez, je ne sais pas qui vous visez.
Mais... les classes moyennes, donc les pères démissionnaires sont partout. Normalement, le juge des affaires familiales, ça, la seule chose qu'il regarde, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant et pas celui des parents. Donc quand vous avez un jugement, on regarde l'intérêt supérieur de l'enfant et généralement, il y a des droits de visite et d'hébergement. Lui, il parle uniquement du droit de visite. Donc il met de côté le droit d'hébergement. Ça voudrait dire un devoir de visite, par exemple, 2 heures par semaine. Est-ce que c'est pertinent de nouer un lien père-enfant avec un père qui ne souhaite pas exercer son droit ? Je pense que c'est contre-productif. Si le père n'a pas envie, l'enfant le ressent, enfin, à moins de... Et donc, je pense qu'on ne peut pas imposer à un père d'exercer quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. En revanche, pour les pensions alimentaires impayées, et c'est là où nous sommes d'accord avec mon confrère, il faut être intraitable. Il y a environ un quart des pensions alimentaires qui sont impayées, des mères qui se retrouvent seules avec toutes les dépenses, même s'il y a des mécanismes d'intermédiation qui sont mis en place et qui fonctionnent relativement bien. Mais c'est quand même tout à fait récent. Donc non, je ne pense pas que ce soit pertinent, même si l'idée part d'un bon sentiment.
D'accord. Alors, bon sentiment, très honnêtement, mais moi je m'inquiète. Jusqu'où va aller...
Mais est-ce que c'est le rôle de l'État ? Est-ce que c'est M. Macron qui doit se substituer aux carences familiales pour dire « Oui, vous devez faire ça ». Enfin, c'est l'État nounou qui nous dit ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Donc on attend le flyer qui va... Il va envoyer un flyer au père en disant « Vous avez un devoir ».
Ne donnez pas des idées comme ça.
C'est le ministre de dire ça pour moi. Enfin, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron intervient
un peu dans...
Mais c'est pas un ministre, je suis pas d'accord avec vous, c'est pas au gouvernement.
Vous pensez que
ça doit être décidé, s'il doit y avoir quelque chose de décidé, ça n'est pas
Emmanuel Macron. D'accord, mais Emmanuel Macron nous parle de la ménopause, de la fertilité et du devoir de
visite. Oui, et de Yana Kamoura et de celle qui va chanter, voilà.
On le disait hier soir.
Il intervient partout.
Ne faites pas un check-up de tout ça.
Mais justement, on disait hier soir avec Catherine Ney qui était sur ce plateau, trop de paroles présidentielles tuent la parole présidentielle. Il s'exprime un peu... trop sur tous les sujets,
ce n'est pas son rôle.
Sans arrêt. Alors sur le fond de l'affaire, moi je suis d'accord totalement avec ce qu'a dit ma consoeur, Sarah Salman.
Vous dites pas mon confrère.
Comment ?
Vous dites pas mon confrère.
Non, vous êtes ma consoeur.
D'accord.
Vous l'acceptez ?
Oui, moi je dis confrère pour tout le monde, mais
vous dites auteur ou autrice ?
Auteur.
Ah, très bien. Mmh. Oh.
Mais je dis confrère pour les femmes aussi.
Très bien.
Non, moi, je dis consoeur.
Monsieur Valigny.
J'ai été l'assistant parlementaire de Gisèle Halimi, grande avocate féministe. Donc je dis ma consoeur. Donc je pense qu'effectivement, forcer un père qui n'en a pas envie avoir son enfant peut être contre-productif. Et ça peut se retourner finalement contre l'enfant. Le plus important, et Sarah Salma de la liste, c'est la pension alimentaire. Il faut que les pensions alimentaires soient versées, soient payées. Un progrès a eu lieu récemment. Une loi maintenant permet de saisir directement la pension alimentaire sur le salaire.
J'ai deux avocats sur ce plateau. Je veux savoir comment vous mettez en pratique le devoir de visite. Est-ce qu'il y a un quota d'heures à respecter? Est-ce qu'il y a un livret de devoirs?
Vous avez un jugement où dans le jugement il y a écrit à telle heure l'enfant doit aller voir son père.
Et ça ne se fait pas. C'est la maman qui, c'est la mère qui va devoir dire regardez, il n'a pas respecté.
Non, mais en revanche, il existe l'inverse. Si la mère ne remet pas l'enfant, le père peut déposer plainte pour non-représentation d'enfant. Dans ce sens-là, c'est possible. D'accord. Mais si le père appelle la mère vendredi, finalement, j'ai pas le temps, je veux pas. Effectivement, la mère, c'est un droit, pas un devoir. Donc là, elle ne peut rien faire.
Mais on sera d'accord en tout cas pour dire que le président de la République parle à tort et à travers. Il y a quelqu'un, je crois, sur ce plateau qui disait il y a quelques temps, pour détendre un peu l'atmosphère, il disait que Emmanuel Macron était un moulin à paroles et qu'à ce niveau-là, c'était plus proche même du ventilateur que du moulin à paroles.
Oh, oui,
joli.
Oui, c'est joli.
Jusqu'à quand va-t-on nous faire le coup des damnés de la terre? Le même rapport sur les émeutes de fin juin, début juillet montrait que sur les gens qui avaient été arrêtés, les deux tiers étaient engagés d'une façon ou d'une autre dans un processus d'enseignement supérieur. On n'est pas chez, c'est pas Jean Valjean.
Vous avez raison de le rappeler.
C'est pas le petit Barra, c'était des gosses de bourgeois qui étaient se faire plaisir. Premièrement. Et puis deuxièmement, dans tous les domaines dont on a parlé, je parle sous le contrôle de notre avocate favorite, l'article 227-17 du code de procédure, du code pénal dispose que tout individu qui a la responsabilité paternelle d'un mineur et qui met ce mineur en danger physique ou moral est passible de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende.
Merci
ça
de
n'est
rappeler
jamais appliqué.
Non, la loi existe.
Jamais, pas une fois.
Les titres, cher Somaya.
À la une de l'actualité, la mort d'un enfant de 3 ans à Mayotte, première victime du choléra depuis le début de l'épidémie. Plusieurs cas avaient été identifiés ces dernières semaines chez des personnes revenant des Comores voisines où l'épidémie flambe avec 98 décès enregistrés selon le dernier bilan officiel. Les forces nucléaires stratégiques russes sont, je cite, « toujours en alerte », prévient Vladimir Poutine lors d'un discours commémorant la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. Le chef du Kremlin précise toutefois que la Russie fera tout pour éviter un affrontement mondial. Et puis certains fans campent depuis des jours devant le Paris Défense Arena et pour cause, coup d'envoi ce soir de la tournée européenne de Taylor Swift. Après une immense tournée aux États-Unis ou encore au Japon, la superstar américaine s'apprête donc à enflammer l'Europe, à commencer par la France.
Somaya, c'est sûr que si Taylor Swift dit « allez voter aux européennes », ça aura encore un peu plus d'efficacité que cette...
Par exemple,
vous allez le voir, on l'a vu sur les monuments, comment on appelle ça, c'est une quelque chose de civique, c'est un rappel, on va voir sur les monuments. Mais je me demande l'effet que ça peut avoir. Moi, je n'étais même pas informée, au courant, on lit quand même un petit peu la presse, donc je me demande, tout ce peuple abstentionniste, est-ce qu'il est touché par ce genre de campagne? On va aller voir, c'est sur les monuments.
On peut l'espérer.
Pardonnez-moi,
il faut espérer.
Ce qui m'a donné raison.
C'est le sens du message, c'est-à-dire si d'autres décideront avant à votre place, ça veut dire qu'il y a. Il y a un côté au niveau européen qui ne serait pas démocratique.
C'est dans un mois.
Élu qui déciderait à notre place. Qu'est-ce que ça veut dire un petit peu?
Il y a un précédent.
Lequel?
Ceux qui iront voter. Dans le même domaine. Quand Mme Thatcher était Premier ministre en Angleterre, elle avait collé sur les murs des affiches de 12 mètres carrés avec des gens qui étaient morts d'une overdose avec la seringue dans la veine. Et naturellement, ça a terrifié ceux qui n'avaient pas l'intention de se droguer.
D'accord, mais là, vous parlez d'une campagne choc.
Non, mais c'est pareil, ça va impressionner ceux qui ont déjà décidé de voter.
Non, mais là, pardonnez-moi, mais ça ne... Je ne sais pas. Si vous étiez tête de liste aux européennes, là, disons, socialiste, et les autres, quelle campagne ferez-vous pour atteindre ceux qui ne vont pas se déplacer le 9 juin?
Une campagne tous azimuts, avec de l'affichage, avec des émissions de télévision, avec des marchés, des réunions publiques, enfin, c'est... Tous les moyens sont bons pour mobiliser les électeurs, bien sûr.
Et vous pensez que ce genre de campagne...
Mais ça peut aider, oui, ça peut aider, parce que ça choque, enfin ça choque au bon sens du terme.
Ça choque pas beaucoup, quand même.
Moi, ça me choque pas.
Non, mais ça choque au bon sens du terme, ça frappe, quoi, c'est assez nouveau. Le visuel sur l'Arc de Triomphe, c'est bien l'Arc de Triomphe qu'on voit.
Tout à fait.
Bah, on va dire
jusqu'à nouvel ordre.
On revoit le drapeau européen et on se replace quand même dans une dimension européenne de l'élection. Que depuis... Alors que c'est vrai qu'entre ce que vous dites, voilà. Rima Hassan, qui a le flambeau de Gaza, le RN qui est quand même très dans des problématiques nationales, et qui, en fait, la campagne, est-ce qu'elle porte vraiment un projet européen? Est-ce qu'il est clairement visible? Là, ça rappelle que oui, il y a quand même aussi une
Mais j'espère que ça va pays, se voilà. cristalliser, parce que est-ce que vous avez entendu parler d'Europe depuis un petit peu le lancement de cette campagne des Européens?
Le président Macron à la Sorbonne en a beaucoup parlé.
Ah, c'est vrai, pour parler d'un sujet qui a mis le feu aux poudres sur l'arme nucléaire.
Comment?
Pour parler d'un sujet qui a mis le feu aux poudres sur la dissuasion
et l'arme nucléaire. Pas seulement, il a parlé de beaucoup de choses, ça a duré deux heures.
Oui, mais nous étions là, on n'a pas pu parler, on a pu écouter.
On parle de défense européenne, on parle d'armes nucléaires, c'est pas à cause des élections européennes, c'est parce que justement il y a la guerre en Ukraine et qu'il y a un enjeu qui se passe aux portes de l'Europe. Donc en fait, la question de l'Europe, elle n'est pas vraiment poussée.
Vous savez quel jour on est?
Oui.
Le jour de l'Europe, le 9 mai.
Voilà. Je dis au passage.
Voilà. C'est pour ça qu'il y a cet affichage. Et qu'il y a ces drapeaux sur les bus.
Merci, monsieur Valéry. Ah oui, merci pour le soutien.
Il y a des drapeaux aussi sur les bus dans Paris.
Bien. Je vous remercie en tous les cas. Vous allez me permettre un petit message personnel, si vous en êtes d'accord, parce qu'on arrive presque à la fin de cette émission. Et je voudrais vous remercier tous. Remercier nos téléspectateurs pour leur fidélité. C'est chaque jour, je pense que vous le constatez, un plaisir renouvelé et sans cesse amplifié, c'est vrai, que de vous retrouver. Et c'est aussi avec plaisir et émotion, je ne peux pas le cacher, que je vais vous donner rendez-vous dans quelques temps, après un congé maternité. Donc c'est une heureuse nouvelle que je me permets de partager avec vous tous, parce que vous êtes des amis, des proches, et avec les téléspectateurs également. Donc un bonheur, une joie qui va me tenir forcément éloignée des antennes à la fois télé et radio, avant, je l'espère, de vous retrouver prochainement et pleinement. Je vais remercier évidemment d'abord vous tous, les équipes formidables, formidables qui m'accompagnent, les directions bienveillantes. Il y a Serge Nedjar, évidemment, Donna Vidal-Revel et tant d'autres. Et puis j'ai la chance d'avoir une amie, une consoeur, Laurence Ferrari, qui malgré toute la charge de travail qu'elle a, eh bien, va assurer la continuité de la grande interview. C'est important cette période électorale, donc vous la retrouverez eh bien, tous les matins. Également à Midi News avec Thierry Cabanne. Je vous dis donc bien, très bientôt. Toujours avec un plaisir sincère, avec une émotion palpable, une reconnaissance entière et puis un clin d'œil à toutes les mamans qui nous regardent de là-haut et qui rendent des choses possibles. Merci.
Et merci à vous d'avoir
invité pour cette
dernière provisoire.
À bientôt. Voilà. À bientôt. Merci encore.
Merci.
Merci Sonia. Alors...
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.